vais le montrer, Gramsci rencontre ce problème, le problème de la culture, dans le cadre d'une réflexion qui est fondamentalement stratégique, c'est-à-dire politique. Il rencontre le problème de la culture en tant qu'acteur politique, en tant que révolutionnaire, et non en tant qu'académique, en tant que sociologue ou anthropologue, alors que se pose pour lui, pour Gramsci, la question des conditions de la révolution dans les pays ouest-européens, dans les pays qu'il appelle occidentaux. Je vais revenir sur ce terme, et particulièrement, évidemment, l'Italie. Ceci implique que la culture est à la fois partout et nulle part dans les cahiers de prison. Elle est connectée, d'une manière ou d'une autre, à tous les concepts importants de Gramsci, tu en as cité quelques-uns, l'hégémonie, les intellectuels organiques, le national populaire, les révolutions passives, le folklore, les crises organiques, le journalisme intégral, les subalternes, etc. Tout en n'étant jamais véritablement l'objet d'une définition rigoureuse du type de celle que les lecteurs, par exemple, de Lévi-Strauss ou de Bourdieu que nous sommes, attendraient de la part d'un sociologue ou d'un anthropologue. Donc il n'y a pas vraiment ce type de définition rigoureuse de la culture que les académiques que nous sommes attendraient. Je vais commencer par évoquer le concept d'hégémonie, sans lequel, je crois, on ne comprend pas le projet politique et intellectuel de Gramsci dans les cahiers de prison. Ce concept d'hégémonie, il a une longue histoire avant Gramsci, notamment dans la social-démocratie russe et allemande, mais il est réélaboré en profondeur par Gramsci. Et je parviendrai à la conclusion que le problème de la culture est lié chez Gramsci à ce que Gramsci appelle la guerre de position. La guerre de position, c'est le type de stratégie révolutionnaire que Gramsci considère adapté aux sociétés qu'il appelle justement occidentales, en un sens que je vais définir. Donc, hégémonie, guerre de position comme stratégie. Et de là vont découler une série de concepts que j'évoquerai, qui permettront d'y voir plus clair dans la conception gramscienne de la culture, justement, comme notamment les concepts d'intellectuel organique, de national populaire, de subalterne, de journalisme intégral, etc. Il n'est évidemment pas question d'être exhaustif, en aucune manière, j'ai dû faire des choix, mais on pourrait évoquer, évidemment, dans le cadre de la discussion, certains des thèmes que je n'aurais pas abordés dans le cadre de la présentation. Donc, première partie, l'hégémonie. Le point de départ de la réflexion de Gramsci dans les cahiers de prison, c'est une question qu'il partage avec de nombreux penseurs de son temps, qu'ils soient d'ailleurs marxistes ou non. Cette question, c'est la suivante. Comment se fait-il que ce qui a été possible en Russie en 1917, à savoir une révolution ouvrière, a échoué partout ailleurs? Comment se fait-il que le mouvement révolutionnaire a été défait dans tous les autres pays, en Allemagne, en Hongrie, ou encore dans l'Italie des Conseils de Turin de 1919-1920, auquel Gramsci a activement pris part en sa qualité de rédacteur et d'organisateur de la revue L'Ordine Nuovo. J'aurai l'occasion d'y revenir. L'intuition de Gramsci, l'intuition inaugurale de Gramsci dans les cahiers de prison, c'est que ces défaites à répétition ne sont pas contingentes, qu'elles renvoient à des évolutions socio-économiques et culturelles essentielles. Non pas, bien entendu, que ces révolutions aient été d'avance vouées à l'échec, mais disons, derrière les tactiques insurrectionnelles plus ou moins opportunes et adaptées, mises en œuvre par les organisations ouvrières, s'exprimaient, selon Gramsci, des coordonnées stratégiques qui étaient fondamentalement distinctes du cas russe. Et c'est précisément ce constat qui va conduire Gramsci à développer une théorie du développement capitaliste et des formes institutionnelles et politiques correspondantes, et à s'interroger sur ce que Gramsci va appeler, dans les cahiers de prison, je cite, « la technique politique moderne ». La technique politique moderne. Et on va voir que la culture prend une place centrale dans cette technique et que c'est cela, en partie en tout cas, qui la distingue, cette technique politique moderne, de technique politique typique des sociétés passées, par exemple, d'anciens régimes, ou qu'on trouve sur d'autres. Ceci va conduire Gramsci à établir une première distinction cruciale, qui est la distinction entre l'Orient et l'Occident. La distinction entre l'Orient et l'Occident. Ces expressions désignent des formations sociales, des types de sociétés différents. Voici un célèbre passage dans lequel cette distinction entre l'Orient et l'Occident apparaît. C'est au cahier 7, paragraphe 16. Je pourrais vous redonner les références plus tard si vous le souhaitez. Je cite. « En Orient, dit Gramsci, l'État était tout. La société civile était primitive et sans forme. En Occident, entre l'État et la société civile, il existait un juste rapport. Et derrière la faiblesse de l'État, on pouvait voir immédiatement la solide structure de la société civile. L'État était seulement une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une chaîne solide de fortifications et de casemates. » Fin de la citation. L'Orient, c'est par exemple la Russie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Gramsci va toutefois abstraire cette notion de tout contexte géographique particulier, et il va l'employer pour se référer à un certain type de rapport entre l'État et la société civile. Un rapport que l'on trouve dans des sociétés géographiquement situées en Orient, ou pas, d'ailleurs. L'Orient désigne en fait les régions au développement capitaliste tardif, qui accusent, en d'autres termes, un retard de développement au sens du développement inégal et combiné. Un pays jeune comme les États-Unis possède, dit Gramsci d'ailleurs, une structure sociale à certains égards orientale. Du fait notamment qu'aux États-Unis, les classes dominantes passées sont relativement peu nombreuses, ce qui rapproche la structure sociale des États-Unis des sociétés orientales. Développement inégal et combiné, c'est un concept, je le dis en passant, qui est développé par Trotsky, qui est une influence souterraine mais majeure sur Gramsci. Trotsky n'avait pas vraiment réfléchi aux implications culturelles du développement inégal et combiné. C'est ce que fait Gramsci. C'est une manière de comprendre le concept de culture chez Gramsci. Quelles sont les implications culturelles de cette notion de développement inégal et combiné? Donc ça, c'est pour l'Orient. L'Occident renvoie à l'inverse aux pays ouest européens, dont le développement capitaliste est plus ancien que les sociétés orientales. Cette profondeur historique, elle a des implications importantes du point de vue, disons, de la complexité de ces sociétés, puisque de nombreuses strates sociales se sont accumulées et se sont sédimentées au cours du temps dans les sociétés dites occidentales. En dernière instance, dit Gramsci, les sociétés occidentales se définissent comme celles dans lesquelles la révolution ouvrière n'a pas eu lieu, où le changement social, en d'autres termes, prend une forme qui est différente de celle qu'il revêt en Orient. La question, c'est par conséquent, pourquoi la révolution n'a-t-elle pas eu lieu dans ces pays occidentaux? Et la réponse, comme je l'ai dit, tient en partie dans la forme de culture et la forme de pouvoir que l'on trouve dans les sociétés occidentales. Cette distinction entre Orient et Occident, c'est l'occasion pour Gramsci de penser la nature de l'État, de la société civile et le rapport qu'ils entretiennent. En Orient, dit Gramsci, l'essentiel du pouvoir est concentré dans l'État. La société, comme il dit dans la citation que je viens de donner, est primitive et sans forme. La société civile est primitive et sans forme. C'est-à-dire peu développée et peu autonome, dans le fond, par rapport à l'État. Prendre le pouvoir, dans ce contexte oriental, suppose avant tout, par conséquent, de se saisir de l'appareil d'État. Armée, administration, police, justice, parlement, etc. La société civile étant fragile, quiconque détient le pouvoir d'État est en mesure d'assujettir la société civile, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est long. En Occident, en revanche, la société civile est dense et autonome. Elle renferme, dit Gramsci, une part considérable de la somme totale de pouvoir qui est contenue dans la société. Si bien que dans ce cas, en Occident, il ne suffit pas de s'emparer du pouvoir d'État pour disposer de l'essentiel du pouvoir. Encore faut-il régner dans la société civile, le problème étant évidemment que l'on ne règne pas dans la société civile de la même façon que l'on prend le pouvoir d'État. C'est tout le sens de la métaphore militaire, de la tranchée avancée, présente dans la citation que je viens de donner, que serait l'État, derrière laquelle se dévoilerait, en cas d'effondrement de l'État, ce que Gramsci appelle une solide chaîne de fortifications et de casemates. C'est une métaphore militaire très courante chez les marxistes classiques, et chez Gramsci en particulier. Gramsci va donc initier un mouvement dans l'histoire des pensées critiques, et du marxisme plus spécifiquement, qui vise à prendre en considération de manière accrue ce qu'on pourrait appeler les formes extra-étatiques de pouvoir. Celles que l'on trouve dans les entreprises économiques, ou dans les grandes corporations qui sont apparues dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ou encore à un niveau plus, disons, micro-sociologique, dans la vie privée, les rapports interpersonnels, ou même la sexualité, dont il est beaucoup question dans le cahier 22, intitulé « Américanisme et Fordisme », l'un des cahiers de prison les plus célèbres. Et ceci, cette prise en compte des formes extra-étatiques de pouvoir, rapproche Gramsci de certaines conceptions du pouvoir qui seront élaborées dans les années 60 et 70, par exemple la microphysique du pouvoir de Michel Foucault. Et c'est ce qui va également beaucoup intéresser les fondateurs des cultures stoïciennes, parmi lesquels Stuart Hall, mais d'autres aussi. Donc prise en considération des formes extra-étatiques du pouvoir, qui est l'une des caractéristiques du cahier de prison de Gramsci, dans la constellation du marxisme classique. Pour autant, Gramsci affirme simultanément qu'à l'époque moderne, l'État ne cesse de se renforcer. Autrement dit, que l'État dit occidental soit relativement faible par rapport à la société civile ne signifie pas qu'il est faible dans l'absolu. Le rapport entre l'État et la société civile, ce n'est pas un jeu à somme nulle, l'un se renforçant au détriment ou en proportion inverse de l'autre. Il est très important de voir que Gramsci ne reconduit pas telle quelle la distinction libérale entre société civile et État. Contrairement à son sens libéral, la société civile n'est pas chez Gramsci une instance, entre guillemets, naturelle, qui s'autorégulerait spontanément en l'absence de l'intervention de l'État. Autrement dit encore, il faut un degré élevé d'interpénétration de la société civile et de l'État pour que la société civile puisse progressivement se constituer en siège de la production et du pouvoir, et donc renfermer une part croissante de la somme totale de pouvoir que j'évoquais. Dans le fond, tout au long des cahiers de prison, Gramsci cherche à problématiser cette distinction entre État et société civile. Et ceci débouche chez lui sur un concept extrêmement original, qui est le concept d'État intégral. L'État intégral, lo Stato integrale, donc, qui est le fruit de cette problématisation du rapport entre État et société civile. La formule qui définit l'État en son sens intégral, comme dit Gramsci, c'est la formule suivante, c'est au cahier 6, paragraphe 88, je cite, « État égale société politique plus société civile, c'est-à-dire une hégémonie cuirassée de coercition. » Une hégémonie cuirassée de coercition. Société politique, ça renvoie dans cette définition à ce que l'on entend habituellement par l'État, administration, armée, tribunaux, parlement, etc. Et État intégral désigne la combinaison singulière dans chaque société de société politique et de société civile à une époque donnée. Donc État égale société politique, administration, armée, etc., société civile, c'est-à-dire une hégémonie cuirassée de coercition. Je reviendrai sur cette expression très connue de hégémonie cuirassée de coercition, qui est l'une des définitions de l'hégémonie chez Gramsci. Cette distinction entre Orient et Occident va conduire Gramsci à élaborer une théorie du pouvoir dans les sociétés capitalistes avancées, donc les sociétés occidentales au sens où je les définis. Et la forme de pouvoir que l'on trouve dans les sociétés occidentales, c'est justement celle de l'hégémonie. La théorie gramscienne de l'hégémonie, ce n'est pas une théorie du pouvoir en général, qui vaudrait pour tout temps et tout lieu. Il n'y a pas d'hégémonie, par exemple, à l'époque antique, à l'époque médiévale pour Gramsci. Il s'agit en d'autres termes d'un concept historique, lié au développement capitaliste, qui concerne donc certains types de sociétés seulement. C'est une notion évidemment très complexe, polysémique, et qui échappe, comme vous pouvez l'imaginer, à toute définition essentialiste. Je relève quatre points importants, me semble-t-il, concernant l'hégémonie, rapidement. Il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer dans la définition. Quatre paramètres pour définir l'hégémonie. Premier paramètre, c'est que l'hégémonie inclut un élément de force et un élément de consentement. Ou un élément culturel, justement. La force et le consentement, c'est ce que Gramsci appelle au cahier 13 le centaure de Machiavel. Le centaure de Machiavel. Le centaure étant cet être mi-homme, mi-cheval de la mythologie grecque, en qui Machiavel et Gramsci, après lui, voyaient une représentation de la nature double du pouvoir. Double, c'est-à-dire force, consentement ou culture. La force et le consentement, dit Gramsci, ce sont les deux piliers de la conduite de l'État. L'élément important, c'est que ces deux dimensions du centaure machiavélien ne se succèdent pas mécaniquement, dit Gramsci. Il ne s'agit pas, en d'autres termes, de deux instances séparées qui seraient mobilisées alternativement par le pouvoir et dont l'une se manifesterait lorsque l'autre s'affaiblit. La part de l'une et de l'autre, de la force et du consentement, varie bien sûr selon les circonstances et selon les formations sociales. Il existe en particulier des situations de dictature sans hégémonie, comme dit Gramsci, de dictature sans hégémonie, c'est-à-dire des cas où l'ordre social n'est plus défendu que par la violence brute. Mais en principe, en tout cas, dit Gramsci, la force et le consentement sont présents à l'état au moins virtuel dans tout acte de gouvernement. Et la formule hégémonie cuirassée de coercition, employée par Gramsci dans la phrase que j'ai citée à l'instant, eh bien, exprime, me semble-t-il bien, cette idée du lien intrinsèque entre les deux. Une hégémonie cuirassée de coercition. Premier élément, donc, force et consentement. La dialectique de la force et du consentement est le centaure machiavélien. Deuxième élément important concernant l'hégémonie, c'est que le consentement gramscien n'est pas obtenu par la simple tromperie ou duperie des masses. Ce n'est pas une question de tromperie ou de manipulation, disons, des masses, l'hégémonie. Bien entendu, la ruse machiavélienne, peut entrer en ligne de compte dans les rapports entre dominants et dominés, mais ce n'est pas l'essentiel, selon Gramsci. Autrement dit, le consentement des subalternes repose sur le fait que les classes hégémoniques engage ce que Gramsci appelle un processus d'universalisation. Le terme qu'il utilise, c'est catharsis, qui signifie étymologiquement purification, la catharsis. Autrement dit, pour régner durablement, les classes hégémoniques doivent satisfaire une partie au moins des intérêts des dominés, en instaurant par exemple, pour prendre des exemples contemporains, une protection sociale, ou en généralisant l'enseignement public, ou en mettant en œuvre encore une réforme agraire. Elles doivent, ces classes hégémoniques, mener la société vers ce que Gramsci appelle un progrès civilisationnel, c'est son terme, un progrès civilisationnel réel. Donc en somme, l'hégémonie impose des contraintes non négligeables sur ceux qui l'exercent. C'est pas facile d'être une classe hégémonique, en d'autres termes. Ça a des implications. Et ce que Gramsci appellera crise organique, eh bien, résulte justement de l'incapacité des classes hégémoniques à se plier à ces contraintes d'universalisation et de catharsis. Deuxième élément. Troisième élément. Gramsci va inscrire l'hégémonie dans une perspective historique. C'est l'un des marxistes classiques les plus historiens, d'une certaine manière, Gramsci. Jusque le milieu du XIXe siècle, 1848 environ, la société, dit Gramsci, est fluide. C'est son terme. En ceci notamment que l'emprise de l'État sur la société civile est encore partielle, et que la centralisation est encore embryonnaire dans la plupart des pays. La centralisation étatique, bien sûr. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'effet de la révolution industrielle, la société civile se densifie et se complexifie. Le développement capitaliste va induire une multiplication des nouveaux groupes sociaux, ce qui va augmenter d'autant les interactions ou les alliances possibles entre chacun de ces groupes sociaux. L'emprise de l'État sur la société civile se renforce. Les grandes corporations, que sont les partis, les syndicats, les associations diverses et variées, se mettent en place. Le parlementarisme, mais aussi l'éducation publique, se généralise. La technique politique moderne, au sens de Gramsci, s'en trouve bouleversée. Et Gramsci va jusqu'à dire que la société civile et l'État s'interpénètrent à ce point qu'ils deviennent progressivement, je cite, « une seule et même chose ». La société civile et l'État deviennent une seule et même chose. Quatrième élément, c'est que l'expansion coloniale, le colonialisme, l'impérialisme, est un facteur très important dans l'émergence de l'hégémonie. Pourquoi ? Parce que le colonialisme et l'impérialisme suscitent une imbrication accrue de l'élément économique et de l'élément étatico-militaire, pour ainsi dire. Une imbrication accrue de l'économie et du politique et militaire. On ne trouve pas en réalité chez Gramsci de théorie de l'impérialisme à proprement parler, du type de celle que l'on rencontre par exemple chez Lénine, chez Rosa Luxembourg ou chez Boukharine. Mais il est tout à fait clair que la théorie de l'hégémonie est une contribution majeure à la compréhension du fait colonial, en ce sens précisément que la montée en puissance de l'hégémonie comme forme gouvernementale au centre et celle de l'impérialisme et du colonialisme dans la périphérie sont concomitantes. Donc c'est un processus unique en quelque sorte, dont il s'agit des deux faces. À chaque type de société, j'en viens maintenant à une question stratégique, à partir de cette définition sommaire de l'hégémonie, à chaque type de société, donc orientale et occidentale, correspond, dit Gramsci, un mode de transformation sociale particulier, un mode de changement social particulier. Et on revient là, par conséquent, au problème de départ. Le problème de départ, c'était le suivant, vous vous en souvenez, pourquoi ce qui a été possible en Russie, sur le mode de la révolution bolchevique, a échoué partout ailleurs. La question inaugurale des cahiers de prison. La réponse que donne Gramsci à ce problème est la suivante. C'est que la révolution russe, c'est selon Gramsci le dernier cas historique, ou l'un des derniers cas historiques, de guerre du mouvement. Ce type de processus révolutionnaire ou de changement social, né avec la révolution française, un peu avant peut-être, et parcourt toute l'époque moderne jusqu'à, en gros, la commune de 1871. Son contenu à la guerre de mouvement peut être socialiste ou de libération nationale, disons les guerres d'indépendance latino-américaine, ou le printemps des peuples, 1848, ou le plus souvent un mélange des deux, de socialisme et de nationalisme. La guerre de mouvement, elle a plusieurs spécificités. Les affrontements, d'abord, sont brefs entre antagonistes, même s'ils peuvent être précédés, bien sûr, d'un temps de préparation plus ou moins long. Du point de vue strictement tactique et logistique, la guerre de mouvement privilégie l'infanterie et la cavalerie, c'est-à-dire des vecteurs rapides. Les lignes de front, ajoute Gramsci, de même que les lignes de communication, sont mouvantes en permanence. En réalité, la guerre de mouvement, dit Gramsci, suppose un espace à la fois physique et social qui soit fluide, dans lequel, en d'autres termes, il soit possible de circuler aisément. Dans le domaine de la politique révolutionnaire, la guerre de mouvement, dit Gramsci, correspond à la formule de la révolution permanente de Trotsky. guerre de mouvement égale révolution permanente de Trotsky. Il n'est pas dit d'ailleurs au passage que Gramsci ait pris toute la mesure de ce que Trotsky appelait la révolution permanente, mais je passe sur ce problème sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Donc, guerre de mouvement égale révolution permanente de Trotsky. À la guerre de mouvement succède, donc dans les sociétés dites occidentales, la guerre de position. Et l'élément crucial dans cette transition vers la guerre de position, c'est la stabilisation des lignes de front, comme pendant la Première Guerre mondiale, en quelque sorte. La stabilisation des lignes de front. Cette stabilisation, elle renvoie à une transformation de grande ampleur de l'ensemble de la société. Donc en somme, la transition vers la guerre de position, ce n'est pas une simple question de choix tactique de la part des antagonistes. Elle repose sur la réorganisation profonde de la structure sociale, des suites de l'industrialisation. En fait, l'hypothèse de Gramsci est ici la suivante. Gramsci avance l'hypothèse d'une homologie, le terme n'est pas de lui, mais c'est ça dont il s'agit, entre l'économique, le militaire, le politique et le culturel. Il y a quelque chose comme une homologie entre ces trois secteurs dans la transition de la guerre de mouvement vers la guerre de position. Dans l'ordre de la politique révolutionnaire, la guerre de position correspond à la formule hégémonie civile, hégémonie, qui s'oppose donc dans le propos de Gramsci explicitement à la révolution permanente de Trotsky. Gramsci ne soutient pas que la guerre de mouvement disparaît complètement, mais elle va devenir un moment de la guerre de position. Et hégémonie civile signifie entre autres choses que la durée des affrontements, c'est-à-dire la durée de la lutte des classes, va s'allonger et que la dimension d'usure entre antagonistes, va devenir déterminante dans la lutte. Et ceci signifie aussi, et tout mon propos visait à arriver à ce point, ceci signifie aussi que le front culturel, l'expression est de Gramsci, le front culturel, va prendre davantage d'importance et qu'il devra, ce front culturel, être désormais intégré dans le calcul stratégique des forces révolutionnaires. Le front culturel. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent visait à aboutir à cette idée. Donc qui est explicitement articulée par Gramsci. La question inaugurale des cahiers de prison, à savoir pourquoi ce qui a été possible en Russie a échoué partout ailleurs, débouche sur cette réponse. Le front culturel est stratégiquement plus important en Occident qu'en Orient. Donc la réponse gramscienne à la question inaugurale des cahiers de prison, c'est parce que le front culturel. Une autre manière de dire la même chose, c'est que la composante hégémonique du pouvoir y est centrale en Occident, ou encore que le pouvoir dans la société civile n'est pas de même nature que dans l'État. Donc pour résumer un peu brutalement, je dirais qu'il n'y a pas chez Gramsci de théorie de la culture. Il y a une théorie du front culturel, qui n'est pas du tout la même chose, qui n'est partie pas la même chose. C'est-à-dire une théorie de la façon dont la culture doit être intégrée dans le calcul stratégique des forces révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que la culture est présente, et de plus en plus, à mesure que le temps passe, dans la manière de gouverner des classes dominantes de la bourgeoisie, des classes hégémoniques. Donc pas de théorie de la culture à proprement parler, mais une théorie du front culturel qui désigne la manière dont la culture doit désormais être intégrée dans le calcul stratégique des forces révolutionnaires. À partir de là, toutes sortes de questions surgissent, évidemment. C'est le début d'une problématique et non sa fin. La première d'entre elles, celle que je vais évoquer d'abord, c'est celle des acteurs qui se livrent une lutte sur ce fameux front culturel. Ces acteurs, ce sont les intellectuels, les fameux intellectuels organiques, dont parle Gramsci. Donc, hégémonie, les intellectuels. Premier thème donc avec lequel le problème de la culture est connecté, étroitement connecté chez Gramsci, c'est celui des intellectuels. Les intellectuels, Gramsci les appelle les organisateurs de la culture, ou encore les fonctionnaires des superstructures. Les fonctionnaires des superstructures. Il y a une formule voisine, je crois, chez Bourdieu, qui emploie l'expression de fonctionnaire de l'universel, je crois. Quelqu'un connaît cette expression ? Je crois que c'est fonctionnaire de l'université chez Bourdieu. Et chez Gramsci, c'est organisateur de la culture ou fonctionnaire des superstructures. D'ailleurs, on pourrait revenir sur le rapport Gramsci-Bourdieu, si vous le souhaitez, qui est un rapport que Bourdieu, à mon avis, a masqué, mais qui est réel. Le concept central ici, c'est donc celui d'intellectuel organique. Ce concept, il apparaît pratiquement à chaque étape de la réflexion de Gramsci, mais c'est dans le cahier de prison 12 qu'il est élaboré le plus systématiquement. Le point de départ de Gramsci dans sa réflexion sur les intellectuels, c'est un problème qui, là encore, préoccupe de nombreux théoriciens de son époque. Et ce problème, c'est le suivant. Les intellectuels sont-ils un groupe social autonome qui serait indépendant des autres classes sociales ou sont-ils partie intégrante des classes sociales existantes? Sont-ils une fraction de chaque classe sociale ou de la classe bourgeoise? Parmi les élaborations de ce problème contemporain de celle de Gramsci, on trouve notoirement celle de Karl Mannheim. Mannheim écrit en 1929 un ouvrage fameux intitulé « Idéologie et utopie », dans lequel il forge la notion d'intellectuel librement flottant, « Freischwebende Intellektuelle », par laquelle Mannheim désigne la capacité des intellectuels à se soustraire, en partie en tout cas, aux déterminations sociales de leur classe d'origine. Il est intéressant de constater que le cahier de prison 12 que j'évoquais est rédigé en 1932, donc en prison, comme son nom l'indique, et que donc il est quasiment contemporain des réflexions de Mannheim sur cette question des intellectuels et de leur rapport à leur classe sociale d'origine. C'est évidemment la croissance considérable du nombre des intellectuels, en un sens que je vais définir, à partir de la fin du XIXe siècle, qui explique que la délimitation de ce groupe social devient un vrai problème, y compris un problème politique à cette époque. L'intérêt de Gramsci pour cette question des intellectuels organiques, encore une fois, n'est pas sociologique ou anthropologique, mais stratégique. Donc elle s'explique par des considérations d'ordre politique. Marx, bien sûr, n'avait pas entrevu l'importance que prendraient les intellectuels dans le développement du capitalisme, les intellectuels y compris les cadres, les managers, je vais y revenir. Et par conséquent, le constat que fait Gramsci, c'est qu'il est crucial d'adapter le marxisme à cette nouvelle donne sociologique, socio-économique, et d'en tirer évidemment toutes les conséquences stratégiques qui s'imposent. Donc c'est un travail de révision, révisionniste par rapport au marxisme, dans lequel se lance Gramsci. Le thème gramscien des intellectuels est étroitement lié à celui de l'hégémonie, puisque, comme je vais le dire, les intellectuels ont évidemment un rôle déterminant dans la construction de l'hégémonie. Comme le dit Christine Bussy-Glucksmann, qui est l'une des meilleures commentatrices de Gramsci, qui est l'auteur notamment de ce grand livre qui s'intitule « Gramsci et l'État », paru en 1976, si mes souvenirs sont bons. Comme dit donc Christine Bussy-Glucksmann, la question des intellectuels chez Gramsci est, comme elle dit, « grosse de toute autre chose », à savoir d'une théorie de la forme d'État qui émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle, et dont les intellectuels, au sens très particulier que confère Gramsci à ce concept d'intellectuel, vont définir en partie la nature donc de cet État. Donc tout comme il n'est pas question pour Gramsci d'élaborer une sociologie de la culture au sens où on l'entendrait aujourd'hui, il n'est pas question pour lui d'élaborer une sociologie des intellectuels, au sens où le ferait par exemple Bourdieu récemment. En revanche, Gramsci est conduit à donner des éléments de sociologie des intellectuels et d'évolution de cette sociologie pour parvenir à ses fins qui, encore une fois, je le répète, sont des fins politiques. C'est ce qui va conduire Gramsci à distinguer deux grands types d'intellectuels dont vous avez sans doute entendu parler. Le premier, c'est les intellectuels organiques et le deuxième, c'est les intellectuels traditionnels. Le deuxième type d'intellectuels, c'est les intellectuels traditionnels. Commençons par les intellectuels organiques. Un intellectuel organique est organiquement lié à une classe sociale dominante ou ascendante. C'est ça la définition de l'intellectuel organique chez Gramsci. C'est un concept qui est très mal compris souvent. Un intellectuel organique est organiquement lié à une classe sociale dominante ou ascendante, en ce sens qu'il est issu de ses rangs, et qu'il a pour fonction de systématiser la conscience que cette classe sociale a d'elle-même, et aussi de prendre part à la production. Donc une fonction de systématisation de la conscience de classe, d'une part, et d'autre part, l'organisation de la production en sens socio-économique ordinaire. Ainsi, la bourgeoisie engendre, par exemple, des techniciens d'industrie, des ingénieurs, des cadres en charge du procès de travail, mais la bourgeoisie engendre aussi des juristes, par exemple, une forme d'intellectuel organique qui est organiquement liée à la domination de la bourgeoisie, des juristes qui, en élaborant un corpus juridique adapté aux nécessités de l'époque, eh bien, vont par exemple participer à la définition de la légalité de ces différents domaines, de ces différents champs d'application. Évidemment, il existait des juristes avant l'émergence du capitalisme, ça va sans dire, mais dit Gramsci, le nombre et la centralité de ce corps professionnel a augmenté avec l'émergence du capitalisme en fonction de besoins liés à l'hégémonie de la bourgeoisie. Donc des exemples d'intellectuels organiques de la bourgeoisie, c'est donc les ingénieurs, les juristes. Un intellectuel organique peut aussi évoluer dans un domaine en apparence très éloigné de l'économie et de la politique. C'est par exemple le cas des romanciers réalistes français du XIXe siècle, qui sont pour Gramsci clairement des intellectuels organiques de la bourgeoisie. J'aurai l'occasion de revenir sur ce thème. Donc le lien des intellectuels organiques avec la production peut être indirect, bien sûr, c'est pas immédiatement. Les intellectuels organiques ont pour fonction d'organiser, je cite Gramsci ici, c'est cahier 12, paragraphe 1, petit 1, le consentement spontané des grandes masses de la population à la direction imprimée à la vie sociale par le groupe fondamental dominant. Le groupe fondamental dominant, c'est le groupe hégémonique. Consentement qui naît historiquement du prestige et donc de la confiance que tire le groupe dominant de sa position dans le monde de la production. Première fonction, organiser le consentement spontané des grandes masses. Petit 2, le fonctionnement de l'appareil de coercition, donc on est passé du consentement à la coercition, de l'État qui garantit, entre guillemets, légalement, l'obéissance des groupes qui ne consentent ni de façon active ni de façon passive, mais qui a été constitué pour s'exercer sur l'ensemble de la société, l'appareil de coercition, donc, en prévision des moments de crise, de commandement et de direction, lorsque le consentement spontané disparaît. Fin de la citation. Je vous redonnerai tout ça si vous voulez. Le concept gramscien intellectuel, c'est un concept très large. Il y a entre non seulement les grands intellectuels, que sont par exemple les professeurs, les magistrats, les journalistes, mais aussi ce que Gramsci appelle les petits intellectuels, notaires, officiers, techniciens, maîtres d'école, policiers même. Les policiers sont pour Gramsci des intellectuels. En dernière instance, peut être considéré comme un intellectuel au sens où il l'évoque, toute personne qui œuvre au consentement spontané des masses, en intervenant donc dans le champ de la culture et des idéologies, et ou qui participe, comme il le dit dans cette citation, à l'appareil de coercition de l'État, c'est-à-dire qui exerce des tâches de commandement ou encore de domination directe. On retrouve ici la dichotomie entre force et consentement. Force et consentement, c'est le fameux centaure de Machiavélien dont j'ai parlé, et donc les intellectuels sont ceux qui articulent les deux. On parlait d'articulation ce matin, l'articulation entre la force et le consentement est typiquement opérée par les intellectuels organiques. À l'intellectuel organique s'oppose l'intellectuel dit traditionnel. Et l'intellectuel traditionnel est, dit Gramsci, le vestige d'une classe dominante déchue. Le vestige, c'est pratiquement de l'archéologie. Le vestige d'une classe dominante déchue à laquelle l'intellectuel traditionnel était organiquement lié lorsque la classe en question était hégémonique, mais elle ne l'est plus, donc l'intellectuel est passé d'organique à traditionnel. Exemple, par excellence, le clergé, les ecclésiastiques, c'est-à-dire une catégorie d'intellectuels à l'origine liée à l'aristocratie foncière, dominante à l'époque précapitaliste, mais qui ne l'est plus. Les intellectuels traditionnels sont souvent d'extraction rurale, alors que les intellectuels organiques sont plutôt urbains. L'élément important, c'est que le fait que des intellectuels soient traditionnels ne signifie évidemment pas qu'ils ne sont pas importants politiquement, qu'ils n'ont pas de fonction politique cruciale. On sait par exemple le rôle crucial joué par le clergé dans l'Italie de Gramsci du début du XXe siècle, et même d'ailleurs dans l'Italie contemporaine, et même dans la France contemporaine. Le clergé, dit Gramsci, exerce un ascendant sur la paysannerie du sud du pays, la paysannerie méridionale, qui n'est pas en mesure d'engendrer ses propres intellectuels organiques, dit Gramsci, et donc la paysannerie du sud, enfermée dans le passé, c'est son expression, du fait de l'hégémonie qu'exerce sur elle ces intellectuels traditionnels venus d'un autre âge, en quelque sorte, c'est-à-dire le clergé. Et par conséquent, pour Gramsci, construire un bloc social progressiste, même révolutionnaire, qui serait basé sur l'alliance des ouvriers du Nord, par exemple des usines Fiat de Turin, et des paysans du Sud, impliquera au préalable de briser l'influence des intellectuels traditionnels de l'Église sur la paysannerie du Sud, pour l'arracher à l'influence de ces intellectuels traditionnels et les faire en quelque sorte entrer dans le XXe siècle. Quelque chose s'étend. Cette réflexion de Gramsci dans les cahiers de prison, je le signale en passant, avait été inaugurée dans son dernier texte d'avant l'arrestation, donc en 1926. Vous vous souvenez que Gramsci est arrêté à Rome en 1926, et il écrivait un texte au moment où il a été arrêté, qui sont les considérations sur la question méridionale. Un texte très connu que vous trouvez en libre accès sur Internet, sur le site marxiste.org, vous connaissez sans doute ce site. C'est un texte, les réflexions de Gramsci sur la question méridionale, qui a beaucoup circulé aux quatre coins du monde et qui a influé notamment sur les subalternes studies indiennes. L'Inde, comme l'Italie de l'époque de Gramsci, a une population majoritairement paysanne et qui se trouve typiquement, selon les subalternistes, sous l'influence d'intellectuels traditionnels, qui ne sont pas évidemment le clergé catholique, mais d'autres types d'intellectuels traditionnels. Soit dit en passant, Gramsci, dans les cahiers de prison, évoque Gandhi. Et pour Gramsci, Gandhi est un cas typique d'intellectuel traditionnel. Cahier 15, il dit ceci, le gandhisme et le tolstoïsme, il parle du tolstoïsme aussi, le gandhisme et le tolstoïsme sont des théorisations naïves et teintées de la religion de révolution passive. liberté. Donc il y a une évocation par Gramsci du fait que Gandhi lui-même, ce mouvement-là qu'il a sous les yeux, est en quelque sorte une révolution passive menée par des intellectuels traditionnels. La révolution passive, c'est un concept important auquel je ne consacrerai pas vraiment de commentaires, mais on pourra y revenir si vous souhaitez. Je passe à présent à une question un peu différente, à la question de ce que Gramsci appelle les appareils d'hégémonie. On a parlé d'Althusser tout à l'heure, je vais revenir sur certains des thèmes qui ont été évoqués par Maxime. Les appareils d'hégémonie et de contre-hégémonie, qui est un thème très important chez Gramsci et qui est un thème qui est lié lui-même à d'autres thèmes, par exemple la technicisation de la culture, le rapport technique-culture, l'éducation et la culture, que je vais évoquer aussi, et enfin la question du journalisme, et spécifiquement de ce que Gramsci appelle journalisme intégral. Donc cette question des appareils d'hégémonie et de contre-hégémonie est liée à technique et culture, éducation et journalisme. Je parle d'une citation très connue de Gramsci qui est tirée des cahiers de prison 12. Voici cette citation. « Tous les hommes sont intellectuels, dit Gramsci, mais tous les hommes ne remplissent pas dans la société la fonction d'intellectuel. Tous les hommes sont des intellectuels, mais tous les hommes ne remplissent pas dans la société la fonction d'intellectuel. » C'est au cahier 12. Toute la question, dit Gramsci à partir de là, c'est de comprendre le rapport entre être intellectuel d'un côté et exercer la fonction d'intellectuel, c'est-à-dire la manière dont la spécialisation et la division du travail, des tâches et des professions, dans le système capitaliste, influe sur, disons, les facultés mentales, les facultés cognitives, et le rapport à la culture, par conséquent, des individus. Donc, être intellectuel, ce que nous sommes tous, mais tous, nous n'exerçons pas la fonction d'intellectuel. La fonction est une fonction spécialisée dans le système capitaliste qui fait émerger une catégorie particulière d'intellectuels au service de la production, du consentement spontané, etc. Un phénomène que Gramsci est l'un des premiers à avoir mis en évidence, et cette phrase le montre, c'est l'émergence de ce qui sera nommé plus tard dans le siècle la technocratie. Au sein du marxisme, un auteur comme Nikos Poulantzas, sur lequel j'ai pas mal travaillé dernièrement, s'intéressera aussi à ce thème. Poulantzas, qui est un grand gramscien des années 60-70. Pour Gramsci, la technicisation de la culture a des effets évidemment profondément transformateurs sur la culture des sociétés européennes du début du XXe siècle. Ce qu'il dit, c'est que la politique moderne, elle tend à dissocier de manière croissante ce qu'il appelle d'un côté l'activité de délibération et d'autre part l'activité technico-culturelle. Ce sont ces expressions. D'un côté, l'activité de délibération et de l'autre, l'activité technico-culturelle. L'activité technico-culturelle, c'est ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui l'expertise en politique. Et a augmenté, ajoute Gramsci, la part de l'activité technico-culturelle dans la prise de décision politique. En somme, le raisonnement est le suivant. La structure sociale devient de plus en plus complexe, ce qui suppose aussi une complexification des processus politiques. Gramsci ne déplore pas cette technicisation de la politique. Il ne se résigne pas à la professionnalisation de la politique, puisqu'il est un marxiste. Mais pour lui, cette technicisation de la culture et de la politique, elle suppose que les intellectuels organiques de la classe ouvrière à venir vont devoir acquérir avec le temps ce qu'il appelle le minimum de culture générale technique. Le minimum de culture générale technique qui va leur permettre justement d'intervenir dans un contexte où l'activité de délibération et l'activité technico-culturelle tend à être de plus en plus dissociées par les évolutions du capitalisme. Le minimum de culture générale technique qui est donc nécessaire à l'activité de commandement dans le capitalisme contemporain et aussi dans la transition vers le post-capitalisme. J'insiste peut-être sur un point, c'est que la notion de culture, elle apparaît toujours chez Gramsci dans ce genre de contexte sémantique. Non, la culture en général, il n'y a pas de considération sur la culture en général, mais il y a des phrases du type « le minimum de culture générale technique ». Donc c'est dans un contexte bien circonscrit, bien précis, que la notion de culture ou culturelle apparaît. Donc encore une fois, tout ça renvoie au fait qu'il n'y a pas de théorie générale de la culture chez Gramsci, me semble-t-il en tout cas, mais que ça, c'est toujours une manière de répondre à un problème politique très concret. Un élément crucial, c'est que cette spécialisation technique et culturelle a des effets complexes en matière éducative. Gramsci est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'éducation, notamment en politique. Cette spécialisation technique, elle tend à généraliser l'enseignement primaire. Pourquoi ? Parce que, dit Gramsci, cette généralisation de l'enseignement primaire est rendue nécessaire par le caractère de plus en plus complexe et de plus en plus technique des tâches productives. Donc cette généralisation de l'enseignement primaire, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, répond à une nécessité du système productif, qui est la complexification des tâches productives. Ceci va avoir des conséquences transformatrices profondes sur l'évolution culturelle des sociétés. Et une conséquence de ce fait particulièrement, c'est ce que Gramsci appelle, déjà à son époque, là je cite, « démocratisation de la haute culture ». La démocratisation de la haute culture. C'est-à-dire le fait que la haute culture est désormais de moins en moins réservée à une élite, par la généralisation de l'éducation primaire, qui répond elle-même à la complexification des tâches productives. Donc cette démocratisation de la culture, c'est quelque chose qui est un problème que Gramsci se posait déjà à son époque. Donc fin des années 20, début des années 30. Cet argument, cette remarque portant sur la démocratisation de la haute culture, elle est à mettre en rapport avec un argument plus général qui est avancé par Gramsci, qui est l'argument suivant, c'est que la bourgeoisie, selon Gramsci, elle se distingue des classes dominantes du passé par le fait qu'elle a une tendance à s'élargir en permanence, à intégrer, en d'autres termes, en permanence, de nouveaux membres. En d'autres termes, la bourgeoisie, dit Gramsci, est une classe sociale attractive, une classe dominante attractive. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, le capitalisme, pour Gramsci, il associe de nouveau qu'il permet, et qu'il a même pour condition de possibilité, la mobilité sociale et la mobilité culturelle. Bien entendu, la bourgeoisie a pour vocation de demeurer toujours minoritaire, sans dire, par essence, dans la population. Mais ça n'empêche pas que, encore une fois, la bourgeoisie est une classe attractive, non seulement sur le plan de la mobilité sociale, évidemment il n'y avait pas de mobilité sociale, ou beaucoup moins de mobilité sociale dans les sociétés d'ancien régime, donc non seulement sur le plan social, mais aussi du point de vue de l'imaginaire de la bourgeoisie, de sa culture et de son idéologie, cette classe hégémonique a ceci de spécifique par rapport aux classes hégémoniques du passé, qu'elle est attractive, que son mode de vie, que ses valeurs, que ses goûts esthétiques ont tendance à attirer les classes sociales les plus, disons, les classes subalternes vers lui. Encore une fois, les castes féodales étaient des classes dominantes beaucoup plus hermétiques de ce point de vue-là, dont l'imaginaire était clairement distingué de celui de la paysannerie, par exemple. Tout ceci conduit Gramsci à dire que la culture s'incarne à l'époque moderne, capitaliste, dans ce qu'il appelle des appareils d'hégémonie. Des appareils d'hégémonie, c'est son expression. Cette notion d'appareil d'hégémonie, elle sera promise à une importante postérité dans le marxisme de la seconde moitié du XXe siècle, et, comme l'a dit Maxime, elle sera notamment reprise par Louis Althusser, qui la transformera en appareil idéologique d'État. Donc Gramsci, c'est appareil hégémonique. Althusser, c'est appareil idéologique d'État. Dans le célèbre article de 70 d'Althusser, donc, sur les appareils idéologiques d'État, se trouve une note, que Maxime a déjà citée, dans laquelle Althusser dit ceci, je la redonne parce que je la trouve marquante, je cite Althusser donc, « Gramsci est, à notre connaissance, dit Althusser, le seul qui se soit avancé sur la voie que nous empruntons, nous, Althusser. Il a eu cette idée singulière que l'État ne se réduisait pas à l'appareil répressif d'État, mais comprenait, comme il disait, un certain nombre d'institutions de la société civique. L'Église, les écoles, les syndicats, etc. » Fin de la citation d'Althusser. Donc Althusser qui rend hommage à Gramsci dans la construction de cette notion d'appareil d'hégémonie. Alors, développer ce point sur les appareils d'hégémonie m'entraînerait trop loin. Je voudrais signaler un élément crucial, ou mettre l'accent sur un élément crucial, qui est que pour Gramsci, aux appareils d'hégémonie de la bourgeoisie doivent répondre, ou répondent, des appareils de contre-hégémonie, ceux évidemment de la classe ouvrière, des classes subalternes. Et le principal de ces appareils de contre-hégémonie, pour Gramsci, c'est évidemment la presse ouvrière. Pendant toute la période qui précède son emprisonnement en 1926, donc au cours de la seconde moitié des années 10 et de la première moitié des années 20, Gramsci consacre l'essentiel de ses énergies à écrire pour des journaux ouvriers, et à écrire sur les thèmes les plus variés, notamment beaucoup sur le théâtre. Le plus connu de ces journaux ouvriers, c'est l'Ordine Nuovo, la revue et le collectif militant, auquel Gramsci a pris une part active à Turin, dans la seconde moitié des années 10, et l'Ordine Nuovo qui s'est illustré lors de la période des conseils de Turin, de 1919-1920, donc tout ça c'est avant la fondation du Parti communiste italien en 1921. Et l'Ordine Nuovo, c'est une revue et un collectif militant que Gramsci avait fondé notamment avec Palmiro Togliatti, qui deviendra ensuite, dès les années 50, le puissant secrétaire général du Parti communiste italien, et qui est, à mon sens, l'un des hommes politiques les plus fascinants du XXe siècle, qui était un compagnon de route de Gramsci depuis toujours, et qui s'est occupé d'ailleurs de la première édition des cahiers de prison, Palmiro Togliatti, à la fin des années 40. Alors, quelle est la conception gramscienne de la presse ouvrière, et plus généralement des appareils de contre-hégémonie ? Ben, là, il y a une influence de Lénine qui est tout à fait claire. et particulièrement une influence de Que faire, l'ouvrage de Lénine où il est question du rôle, de la fonction de la presse ouvrière. Comme Lénine, Gramsci soutient qu'une revue, c'est d'abord un organiseur collectif. Ça, c'est une fonction d'organisation collective. Plus précisément, la fonction de la presse ouvrière, c'est de faire émerger ce que Gramsci appelle l'intellectualité nouvelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de favoriser l'éclosion et la formation de ceux qui vont devenir par la suite les intellectuels organiques de la classe ouvrière. Donc c'est ça le rôle de la presse ouvrière. L'intellectualité nouvelle, c'est-à-dire de favoriser le développement intellectuel et de radicaliser politiquement ceux qui vont devenir les intellectuels organiques de la classe ouvrière dans les années qui suivent. Et les premiers numéros de L'Ordre des Nouveaux présentent la revue et la présentent comme se proposant d'élaborer une, je cite, « nouvelle culture socialiste ». Donc c'est l'idée de tendance et de devenir radical et organique de ces nouveaux intellectuels organiques de la classe ouvrière. L'idée, c'est qu'il s'agit pour le journal de distinguer et d'accompagner les tendances émergentes au sein de la classe ouvrière, y compris les tendances émergentes sur le plan culturel et sur le plan langagier. Alors cette idée de tendance émergente, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'histoire du marxisme italien, dans le courant marxiste italien des années 60-70, ce qu'on appelle l'opéraïsme, dont Toni Negri est le plus connu des représentants, mais Mario Tronti est un autre représentant important. C'est un courant qui va se faire une spécialité de pratiquer ce qu'ils appelaient l'enquête ouvrière, qui est une pratique qui remonte à Marx, mais qui existe déjà dans Gramsci, et particulièrement dans la période dite ordinoviste, c'est-à-dire la période de l'Ordine et de l'Ordre, 1919-1920. L'enquête ouvrière, c'est une manière de s'intéresser à la subjectivité ouvrière naissante et de la radicaliser dans une perspective socialiste. On pourra revenir sur l'histoire du marxisme italien, c'est quelque chose de vraiment... Là, j'ai cité Togliatti, qui est un pan, un pôle plus exactement du marxisme italien. Negri, c'est le pôle radicalement opposé, d'une certaine manière. Negri, c'est... Et au milieu, il y a Gramsci, d'une certaine manière. On prend. Gramsci 6 au cahier de prison numéro 24, une réflexion consacrée au journalisme. Donc, il est en prison, il a le temps de réfléchir, hélas, et il va d'une certaine manière systématiser sa conception pratique du journalisme qu'il avait pratiqué en 1919-1920 à Turin. Et c'est dans ce cadre qu'il va élaborer la notion de journalisme intégral. Le journalisme intégral. Il est intéressant de relever que le texte de Walter Benjamin, qui est intitulé « L'auteur comme producteur », qui est un texte dans lequel Benjamin s'interroge, comme Gramsci, sur la fonction du journalisme dans la lutte des classes, eh bien date exactement dans la même année que le cahier de prison numéro 24, c'est-à-dire 1934. Donc la réflexion de Gramsci sur le journalisme intégral et la réflexion de Benjamin sur ces questions, l'auteur comme producteur, un texte évidemment fabuleux, c'est concomitant. Alors qu'est-ce que c'est que le journalisme intégral? Le journalisme intégral a ceci de particulier selon Gramsci, qu'il ne se borne pas à rendre compte de l'actualité, évidemment, mais qu'il crée littéralement son public. Le journalisme intégral crée son public. Et pour cela, il va s'appuyer sur un groupe militant déjà existant, par exemple un collectif ouvrier, mais dont il va chercher à élargir progressivement la base, en créant donc son public, littéralement. Donc en somme, pour utiliser un terme que Gramsci n'a évidemment pas utilisé, mais qu'on utilise communément aujourd'hui, le journalisme intégral a quelque chose de performatif. Il a quelque chose de performatif en ce sens qu'il s'adresse à un public à venir, qui n'est pas déjà là, mais que la presse ouvrière va se proposer de construire. Je signale en passant que cette dimension performative, le terme n'existe pas, mais l'idée est là, apparaît dans les cahiers de prison à une autre occasion cruciale, lorsque Gramsci parle de Machiavel, et particulièrement du Prince, la brochure, le livre de Machiavel. Gramsci dit que, dans son ouvrage Le Prince, je cite, « Machiavel lui-même se fait peuple ». Machiavel lui-même se fait peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le prince s'adresse, comme la presse ouvrière, à un peuple à venir, qui n'est pas encore advenu, mais qui est à venir, et qui est un peuple qui aura, d'une certaine manière, connaissance des opérations de domination dont il est l'objet, parce que, justement, Machiavel, dans Le Prince, ou Gramsci, dans L'Ordine et le Nouveau, eh bien, lui aura, justement, révélé les opérations de domination dont il est l'objet. Donc c'est une sorte de journalisme constructiviste, pourrait-on dire, ou performatif, qui conduit Gramsci à affirmer que le rôle de la presse, c'est pas de commenter l'actualité pour des gens qui existent déjà. C'est d'une certaine manière de s'adresser aux générations futures, aux générations ouvrières futures. D'où l'idée de constructivisme journalistique qu'il a développé à chaque étape, d'une certaine manière. Toute la question ensuite, c'est de savoir comment on fait ça, comment on construit un peuple, histoire dont on pourra parler dans la suite. Bon, j'en viens à présent à un autre concept important. Je crois que je parle trop longtemps, en fait.
Vas-y.
J'en viens à présent à un autre concept qui est crucial, là encore, et autour duquel s'organise la réflexion de Gramsci sur la culture, qui est le concept de national populaire, qui est un concept central pour comprendre la notion de culture chez Gramsci. Voici ce que dit Gramsci. C'est que le fait marquant à l'époque moderne, c'est que la culture s'organise dans le cadre d'une matrice spatiale et temporelle très particulière, qui est l'État-nation. C'est l'État-nation qui organise la culture à l'époque moderne. Il existe bien sûr des cultures régionales ou locales, et la culture a aussi une dimension internationale, par exemple européenne ou mondiale. Gramsci ne néglige aucun de ces deux aspects, l'aspect régional ou local d'un côté et l'aspect international de l'autre. D'une part, il est sarde, de Sardaigne donc, et il est attaché à son dialecte et à sa culture insulaire. Politiquement d'ailleurs, Gramsci commence par être un indépendantiste sarde. Politiquement, c'est comme ça qu'il commence. Donc loin de lui l'idée de négliger les régionalismes, les particularismes dialectaux, etc. Et d'autre part, en tant que marxiste, il est évidemment très attaché à la dimension internationaliste de la politique. Il a notamment participé aux travaux du 4e congrès du Comintern. Donc c'est quelqu'un qui avait une activité internationaliste. Donc loin de lui, là encore, de négliger la dimension internationaliste. Tout comme il ne néglige pas la dimension locale, régionale. Mais, et c'est le fait important, tout ceci n'empêche pas que la dominante à l'époque moderne, c'est l'organisation de la culture à l'échelon national. Et pour lui, c'est ce fait qu'il s'agit de penser. D'où le concept qu'il va élaborer, qui est le concept national populaire, qui est une manière pour lui de concevoir cette dimension nationale de la culture à l'époque moderne. National-populaire, c'est comme ça que c'est écrit. Cette notion de national populaire, qui revient là encore tout au long des cahiers de prison, n'a évidemment pas chez Gramsci les connotations, disons, nationalistes, donc négatives, que nous pourrions lui conférer aujourd'hui. Le national populaire, pour Gramsci, c'est clairement un progrès par rapport au régionalisme féodal antérieur. Donc il y a quelque chose de fondamentalement progressiste, et même révolutionnaire, dans le national populaire tel que conçu par Gramsci. Ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque moderne, les rapports de classe et l'hégémonie s'organisent à l'échelon national. Ce qui suppose quoi ? Cela suppose de combattre pour conférer au national populaire un contenu progressiste et révolutionnaire. Pour Gramsci, le national est populaire. Et il signale que dans certains pays, national et populaire sont quasi synonymes. Pourquoi le national est populaire, au moins virtuellement ? Parce que le peuple, la classe ouvrière, a voix au chapitre, qu'il participe, en tout cas à son époque, à la définition de ce que c'est que le national. Et que d'une certaine manière, le national populaire, n'existerait pas sans l'intervention du peuple sur la scène politique nationale. Évidemment, le peuple n'est pas seul, les catégories populaires ne sont pas seules dans la définition de ce que c'est que le national, elles sont en conflit pour cela, et en antagonisme pour cela, avec la bourgeoisie, bien entendu, mais elles ont quand même voix au chapitre, au sens où il y a de la conflictualité sociale et politique et culturelle à l'échelon de l'État-nation. Ça m'a conduit à faire une brève digression, c'est que un reproche qui est fréquemment formulé par Gramsci à l'encontre des marxistes de son époque, et notamment envers Trotsky et à sa révolution permanente, c'est qu'il dit que beaucoup de ces marxistes, et notamment Trotsky, sont abstraitement cosmopolites, ou abstraitement internationalistes. C'est-à-dire que ces marxistes contemporains de Gramsci, dont Trotsky, considèrent que le prolétariat est en quelque sorte immédiatement international. Et qu'à l'inverse, tout ce qui relève de la nation est par essence bourgeois, mauvais, négativement connoté, etc., etc. Aux yeux de Gramsci, la dialectique du national et de l'international est une dialectique beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas l'international à la classe ouvrière et le national à la bourgeoisie. Au contraire, il faut lutter, dit Gramsci, pour attribuer une connotation progressiste, voire révolutionnaire, au national. Ce que dit Gramsci, c'est que bien sûr, le prolétariat est par essence international, mais il est international par la médiation du national populaire. Okay. Donc il y a une étape, si vous voulez, entre l'internationalisme virtuel de la classe ouvrière et son internationalisme réel, et cette étape, c'est l'État-nation en tant que médiation entre le virtuel et le réel ou le concret. Bon, le raisonnement de Gramsci concernant le national populaire est évidemment adossé au cas italien, qui est le cas qui l'obsède, bien sûr, pour des raisons encore stratégiques. Et ce cas, dit Gramsci, le cas italien, la formation de l'État-nation italien, est à bien des égards historiquement anormal. Pourquoi ? Parce que l'unité italienne, signale Gramsci, issue donc du Risorgimento, a été essentiellement un processus paro, ce que Gramsci appelle une révolution passive. La construction de l'État-nation italien a été une révolution passive. Autrement dit, le Risorgimento n'est pas sous-tendu par un puissant mouvement populaire par en bas, contrairement par exemple à la Révolution française, qui est le contre-exemple par rapport au cas italien. Une révolution passive, c'est une révolution, c'est bien une révolution, dit Gramsci, mais c'est une révolution qui, comme son nom l'indique, fait du peuple un élément passif, dans lequel le peuple est justement passif. C'est une révolution donc par en haut, qui est conduite par des élites, par des intellectuels organiques de la bourgeoisie. Et ceci implique que l'État-nation italien, pour Gramsci, comporte de nombreux éléments défectueux, des éléments mal formés, entre guillemets, contrairement encore une fois au cas français, qui est le cas par excellence de culture nationale populaire instaurée par un vrai processus révolutionnaire qui est la Révolution française. Donc, en somme, dans le cas italien, il n'y a pas d'équivalent de la Révolution française et par conséquent, pas de construction de l'État-nation par en bas. Il y a seulement une révolution passive qui fait que le national populaire, dans le cas italien, prend une allure très particulière. Alors, je me concentre, pour ne pas me disperser sur ces questions de national populaire, sur ce que Gramsci dit du rapport entre le national populaire et la littérature. Je décide de me centrer là-dessus. Certaines des plus belles pages, me semble-t-il, des cahiers de prison portent sur cette question du rapport entre national populaire et littérature. Et l'un de mes passages favoris, et qui est à mon avis l'un des plus beaux passages des cahiers de prison, porte spécifiquement sur Dostoïevski. Passage que vous connaissez peut-être. On remarque des affinités d'ailleurs stupéfiantes entre ce que dit Gramsci de Dostoïevski et ce qu'écrit à propos de Dostoïevski Lukács dans le roman historique. Le roman historique de Lukács, c'est 1935, la première édition. Là encore, c'est le même groupe de penseurs marxistes. Que dit Gramsci à propos de Dostoïevski? Gramsci constate que la culture italienne, pour les raisons que je viens d'évoquer, son caractère défectueux ou mal formé, Gramsci constate donc que la culture italienne n'a jamais produit de Dostoïevski. Dostoïevski n'est pas simplement, aux yeux de Gramsci, un grand écrivain, bien sûr que l'Italie a produit des grands écrivains. C'est un grand écrivain qui est doté, justement, dit Gramsci, d'un sentiment national populaire, d'un lien intime avec le peuple, et qui est lu et célébré par le peuple, ce qu'était précisément Dostoïevski. Au contraire, dit Gramsci, chez les intellectuels italiens, le rapport au peuple est, c'est son expression, paternaliste. Dostoïevski, au contraire, à la fois représente le peuple russe sous toutes ses formes dans ses romans, il figure les passions et les croyances et les convictions les plus profondes du peuple russe, et en même temps, dit Gramsci, Dostoïevski se pose en permanence le problème d'être compris par lui, d'être compris par le peuple. Donc en d'autres termes, Dostoïevski lui-même se fait peuple. Dostoïevski lui-même se fait peuple. C'est-à-dire qu'il se pose le problème d'être compris par des gens. Il représente le peuple, mais il le construit en même temps. Il le performe, si je peux utiliser cette expression, dans un même mouvement. Représentation et construction. Une véritable littérature nationale populaire, c'est ça. Et donc ça nous donne une indication sur la manière dont Gramsci définit le national populaire. Et ça suppose, entre autres choses, et ça c'est très important, et ça renvoie d'ailleurs à un autre auteur de l'époque qui est Erich Auerbach, et sa réflexion sur le réel dans la littérature occidentale, le livre s'appelle Mimesis, c'est que ça suppose d'accepter ce rapport intime national populaire avec le peuple, ça suppose d'accepter, comme Dostoïevski le fait, de mêler le haut et le bas. De mêler la littérature d'avant-garde, la plus novatrice d'un côté, exigeante, avec les formes populaires les plus communes, les plus ordinairement lues par la population. Et Dostoïevski est remarquable pour Gramsci, précisément pour cette raison, parce que son œuvre contient le haut et le bas inextricablement. Mais ça c'est une manière d'approcher la question du national populaire, et particulièrement dans le rapport à la littérature. Donc en somme, là je vais un peu vite... Pour Gramsci, la formation d'une conscience nationale, c'est-à-dire d'un national populaire progressiste, ça suppose des choses en apparence aussi triviales qu'une littérature pour l'enfance, par exemple, ou des essais de vulgarisation scientifique qui seraient écrits par des intellectuels nationaux, nationaux populaires, et qui parleraient à leurs concitoyens. Oui, je vais encore citer ça, il y a une typologie des romans populaires qui esquisse Gramsci au cahier 21, et qui est l'un des moments les plus intéressants des cahiers de prison. Voici ce que dit Gramsci, c'est donc cahier 21, paragraphe 6. Divers types de romans populaires, c'est le sous-titre de divers types de romans populaires. Il existe une certaine variété de types de romans populaires. Dans le peuple coexistent différentes couches culturelles, différentes masses de sentiments, qui prévalent ici et là, différents modèles de héros populaires. Établir un catalogue de ces... Il se parle à lui-même, donc c'est des notes pour quand il sortirait de prison, ce qui n'est pas arrivé, évidemment. Établir un catalogue de ces types et vérifier historiquement leur plus ou moins grand succès respectif, et donc important en vue du présent essai, les cahiers de prison. Petit 1, type Victor Hugo, Eugène Sue, Les Misérables, Les Mystères de Paris. Caractère nettement idéologico-politique, tendance démocratique liée aux idéologies de 1848. Petit 2, type sentimental, non politique au sens strict, mais où s'exprime ce que l'on pourrait définir comme une démocratie sentimentale. On dirait du Rancière. Type 3, type qui se présente comme roman de pure intrigue, mais qui a un contenu idéologique conservateur réactionnaire. Type 4, le roman historique d'Alexandre Dumas et de Ponson du Terrail, qui, outre son caractère historique, a un caractère idéologico-politique, mais moins marqué. Petit 5, le roman policier, là c'est plutôt du Boltanski, sous son double aspect, Lecoq, Rocambole, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, etc. Donc il fait une typologie des romans populaires dans le cadre d'une réflexion générale sur la définition du national populaire. Parce que ça va lui servir à la fois comprendre ce que c'est que le national populaire, les enjeux stratégiques qui sont derrière, et aussi pourquoi dans le cadre de l'Italie, eh bien, les écrivains peuvent être des grands écrivains, mais sans ce lien intime avec le peuple qu'avait par exemple, Dostoïevski. En fait, je vais couper pour qu'on ait le temps de discuter. Je voudrais juste évoquer le concept de subalterne et clore là-dessus. J'avais préparé quelque chose, mais c'est pas grave. On y reviendra dans la discussion. Le concept de subalterne, de classe subalterne, que l'on trouve notamment dans les subalterne studies indiennes, c'est un concept qui a fait l'objet de beaucoup de débats, notamment dans les cultures studies, notamment dans les pensées critiques contemporaines en général, et qui est défini par Gramsci de diverses manières. Il est très difficile de parvenir à une définition unique de ce que c'est que les classes subalternes. Une manière, parmi d'autres, me semble-t-il, de comprendre ce que c'est que les subalternes, c'est de lier le concept de subalterne à celui de national populaire. Et de définir les subalternes de la manière suivante, c'est que les subalternes, ce sont les fractions des classes dominées qui ne sont pas encore intégrées au national populaire, ou qui sont en marge du national populaire. Cette notion de classe subalterne, elle est évidemment plus large que celle de classe ouvrière, même si elle inclut la classe ouvrière ou des fractions de la classe ouvrière. Et elle inclut une dimension raciale, c'est l'expression qu'utilise Gramsci, qui est cruciale dans la définition des classes subalternes. Donc ça va au-delà de la pure question socio-économique de la classe, la dimension raciale, la raison pour laquelle des gens comme Stuart Hall se sont évidemment intéressés à Gramsci, c'est notamment pour cela. Gramsci se réfère dans un passage à l'Empire romain et aux classes subalternes sous l'Empire romain, et il rappelle que souvent les subalternes appartiennent à des races ou à des religions étrangères, c'est son expression. Ce qui caractérise les subalternes, c'est d'être fragmentés, donc de n'être pas intégrés en quelque sorte dans les institutions du national populaire, et c'est également d'être hétéronome. C'est être hétéronome, en ce sens que les subalternes ont ceci de particulier que, en temps normal en tout cas, ils ne parviennent pas à se donner une volonté collective propre. En quelque sorte, à l'état naturel, les subalternes, hors phase exceptionnelle plus exactement, hors phase insurrectionnelle et révolutionnaire, les subalternes n'ont pas de volonté collective propre, ils sont hétéronomes et fragmentés dans leur existence. Mais il arrive parfois, ajoute Gramsci, et c'est ça qui va intéresser évidemment les subalternistes indiens, il arrive parfois que surviennent des moments où les subalternes parviennent à sortir de l'hétéronomie pour se constituer un groupe autonome et pour devenir des acteurs, au sens d'avoir une agency dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des moments rares, mais ce sont des moments qui existent. Et ce que dit Gramsci, et je conclurai là-dessus, c'est que la tâche de l'historien et la tâche du marxiste, c'est de chercher les traces que Gramsci qualifie d'inestimables, des moments où les subalternes parviennent à cesser d'être hétéronomes et à devenir autonomes, c'est-à-dire à se doter d'une volonté collective qui va les faire sortir de cet état de fragmentation qui est en quelque sorte leur état naturel. Et d'une certaine manière, on peut dire que toute l'histoire sociale britannique, des années 50, 60, 70, des auteurs comme Eric Hobsbawm, des gens comme E.P. Thompson, dont on a parlé ce matin, des gens comme Christopher Hill, qui est notamment un historien de la piraterie, vous connaissez peut-être, et bien toute l'histoire sociale britannique n'a cessé d'une certaine manière de chercher les traces inestimable d'expression autonome des subalternes. Et ça vaut aussi pour une part pour les culturels studies. Bon voilà, je vais arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Merci, bravo, quelle journée. Eh bien, la parole est à la salle.
Je mets debout comme peu.
Personne ne veut ouvrir le bal. Bon, bah, moi, je vais bien m'y coller. C'est plus des remarques que des questions, finalement. Et peut-être pour essayer de faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, je crois que c'est l'insistance que tu as portée à un moment donné de ton intervention sur le front culturel est tout à fait, à mon avis, centrale pour comprendre, je crois, c'est l'interprétation que j'en fais, éventuellement les mésinterprétations qu'ont fait les auteurs des Cultural Studies de Gramsci. Parce qu'il me semble qu'ils prennent pas, ils attrapent pas Gramsci en bloc, comme ça, ils en attrapent des éléments. Alors j'ai cette impression-là. Et notamment, un des éléments qui n'attrape pas, c'est cette question du front culturel. La question de la culture, mais précisément couplée à la question de la lutte des classes et de la construction, effectivement, d'une action politique contre-hégémonique susceptible de la prise du pouvoir. C'est-à-dire que cette idée de prise du pouvoir, j'ai l'impression qu'elle est largement minorée, en fait, dans les utilisations de Gramsci par les cultural studies, évidemment, enfin, à discuter. Ça, c'est un premier point. J'avais noté plein de choses, mais comme ton exposé était très dense, je suis passé d'un point à un autre sans pouvoir développer ma propre idée sur la question. La question du national populaire me semble extrêmement importante aussi, comme étant, chez Gramsci, la qualification d'un moment, d'une forme sociale culturelle, en fait, particulière, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait requalifier de... d'idéologie propre à une forme sociale, voilà, historiquement située. Et c'est vrai que si le national populaire est la forme culturelle émergente qui devient centrale au moment où Gramsci écrit, on se dit actuellement, y aurait-il effectivement un international populaire, auquel cas par qui, comment serait-il produit ? Il faut se poser aussi la question derrière de finalement la dimension internationale est portée par quel type de classe aujourd'hui. Est-ce que finalement ce sont plutôt les classes dominantes ou les classes ou les subalternes et les classes dominées? C'est les deux en fait, mais dans des formes d'actualisation complètement différentes. On va au-delà de l'aspect national, allons en deçà, et il y a aussi, me semble-t-il, une production, on pourrait dire, locale, peut-être même qu'on pourrait qualifier de communautaire, voire de communautariste. Voilà. Comment est-ce qu'on peut utiliser peut-être Gramsci pour repenser, à partir de la question du concept de national populaire, des éléments... des dynamiques qui aujourd'hui bien évidemment explosent à la fois par le haut, par le bas et mettent à mal la question du national tout en on voit bien que c'est une question qui revient aussi et qui voilà.
Deux choses peut-être sur la question du front culturel, là je laisserai Maxime juger, parce que je ne connais pas suffisamment la tradition des cultural studies pour voir dans quelle mesure cette dimension de lutte ou de conflictualité dans la définition de la culture est importante. J'imagine que selon les auteurs et selon les périodes des auteurs, elle est plus ou moins présente. Hein. Le Stuart Hall, le plus politique, est évidemment quelqu'un qui s'inspire de Gramsci sur la définition antagoniste de la culture ou conflictuelle de la culture. À d'autres périodes et pour d'autres auteurs, les choses se passent peut-être différemment. Moi, je pense que simplement l'élément important quand on fait de l'histoire des idées, c'est de ne pas se tromper dans le statut qu'on accorde aux différents penseurs qu'on évoque. Gramsci, ce n'est pas un universitaire, c'est donc pas quelqu'un dont on attend le même type de choses que l'on attendrait d'un Lévi-Strauss.
Justement. Donc c'est faire un usage très académique, finalement, de.
C'est ça, alors peut-être.
Qui est un stratège politique.
Oui, mais tu vois, Stuart Hall, par exemple, et son rapport au thatchérisme, Stuart Hall est quelqu'un qui, à la fois, a été un académique, dans un contexte d'ailleurs, juste pour recontextualiser les choses, il est évident que les universitaires, à l'époque de Gramsci, c'était à l'échelle européenne quelques milliers de personnes, plutôt plus. À l'époque de Stuart Hall, c'était déjà la massification de l'enseignement. Donc, la nature de l'institution a déjà changé. Tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que. L'institution a considérablement grossi et par conséquent c'est aussi le lieu d'une conflictualité sociale qu'il faut prendre en considération. Mais oui, tout à fait, peut-être qu'il y a dans les cultural studies une insuffisante prise en considération de la dimension antagonique et conflictuelle de la définition de la culture. En tout cas chez Gramsci c'est tout à fait clair que son problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette composante culturelle du pouvoir, de cette composante hégémonique du pouvoir dans le contexte de la construction d'un parti, de ce qu'il appelait le prince moderne, c'est-à-dire le parti communiste, un prince qui serait un élément complexe de société, comme il dit, c'est-à-dire un collectif qui pourrait mener la révolution ou la transformation sociale radicale. C'est vraiment, la culture, c'est une pièce dans un dispositif plus général. Quoi. Et par conséquent, quand les conditions ont disparu, parce qu'évidemment à l'époque des cultural studies, c'est moins la révolution qui est à l'ordre du jour que la contre-révolution, évidemment que le problème change de nature aussi. Ça s'explique aussi en partie par ça, j'imagine. Mais ceci dit, sur ton diagnostic, je suis tout à fait d'accord.
C'est-à-dire qu'on voit, il me semble, mais là encore, je parle sous contrôle, le contrôle de Maxime, pas partout, pas tout le temps, mais on a dans les cultural studies, y compris de première génération, l'école de Birmingham. On a parlé ce matin un peu des descriptions parfois un peu déclinistes de la classe ouvrière. L'idée que finalement, en tout cas moi c'est cette lecture que j'en fais, quand je lis ça, c'est ça que ça m'évoque. L'idée que finalement, en attachant de l'importance au braconnage, aux ruses, aux micro-résistances, etc., à la quotidienneté et à l'invention du quotidien, comme dirait De Certeau, on oublie de constituer éventuellement les classes populaires et la classe ouvrière comme le sujet central de l'émancipation.
Oui, ça c'est évidemment quelque chose que Gramsci n'oublie pas de faire, parce voilà. Il reste sur cela un marxiste classique.
Voilà, et c'est central chez Gramsci.
Oui, tout à fait. Gramsci, il y a chez Gramsci cette volonté d'élargir ou de rediscuter. La question de la définition de la classe ouvrière, c'est dû au contexte italien dans lequel il est, et qui est un contexte évidemment extrêmement complexe, avec une paysannerie massive, une classe ouvrière au nord qui est naissante, mais qui est encore largement minoritaire. C'est d'ailleurs ce qui va plaire aux subalternistaniens, c'est que les subalternistaniens sont devant une structure sociale similaire, avec une paysannerie massive, des poches de classe ouvrière qui se créent, et la question stratégique pour eux, comme celle de Gramsci, c'est de savoir comment on connecte les deux, quoi. Donc c'est dû à cette complexité de la réalité sociale qu'il a sous les yeux. Mais je ne sais pas. Je pense que la conjoncture très différente dans laquelle se trouvent les Anglais explique pour une bonne partie la nature quand même différente de la définition de la culture qu'ils donnent par rapport à celle de Comme je l'ai dit trop rapidement, mais la notion de tendance émergente est absolument cruciale chez Gramsci. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir des choses qui naissent et de voir comment on peut les prolonger, comment on peut les radicaliser. Ça, je ne sais pas si c'est une pratique qui existe dans les cultures. Je ne disais pas tellement l'impression.
Je ne pense pas sous cette forme-là. Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Fabien, parce que je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, en fait, notamment sur la version de Certeau des cultural studies, mais qui est quand même une forme assez tardive, qui est plutôt des années 80, et c'est plutôt au moment de l'arrivée aux États-Unis, avec en partie Grossberg, et puis après Jenkins, et tout ce qu'on connaît de ce côté-là, qui va pousser effectivement cette réflexion sur les armes de fer et les tactiques assez loin. Mais ceci dit, si on reste sur Birmingham et sur la forme cristallisée de l'école de Birmingham, qui est quand même Stuart Hall, puisque c'est sa pensée qui va le plus voyager et se diffuser sous l'étiquette cultural studies. Hein,
moi je pensais plutôt à Hogarth en fait.
Tu pensais à Hogarth?
Oui.
Mais parce que, si tu veux, Hogarth, il est très loin de Gramsci. De toute façon, et c'est pas sa préoccupation, la révolution. Enfin, c'est absolument certain. Donc, ce serait lui faire un mauvais procès, lui dire qu'il n'est pas suffisamment gramscien. Par contre, pour Stuart Hall, qui se dit gramscien, Hall se pense comme un intellectuel organique. Et Hall, finalement, a une. Son obédience, elle est du côté, non pas de la vérité ou d'une quelconque scientificité, hein, c'est là où ils iront avec les armements épistémologiques d'Althusser, elle est du côté de la critique et de. Alors il y a sans doute quelque chose qui relève de l'organisation aussi d'un peuple, hein, de se faire peuple. Mais la question, c'est quel peuple ? Et justement, c'est pas le peuple des prolétaires, c'est pas la classe sociale. Et là où le moment de l'appropriation la plus forte de Gramsci par Hall, c'est sur la question de la race et de l'ethnicité, où là, effectivement, il fait une lecture dont on peut difficilement dire qu'elle est très éloignée de la lecture gramscienne, puisqu'il pense bien les conjonctures dans lesquelles on a des formes d'hégémonie cuirassée et de coercition, donc on a ces deux dimensions-là. Voilà, donc je pense que le déplacement ou le décalage que peut-être tu peux percevoir, il est justement sur le fait que, oui, on est dans une perspective gramscienne, oui, on est dans une pensée stratégique, mais qui est du côté de la race. Et en fait, c'est quelque chose qui, même avant que Hall arrive à formuler véritablement cette théorie matérialiste du racisme, même auparavant, c'est en filigrane, parce que dans Policing the Crisis, c'est déjà là, parce que dans tous ses travaux, il y a déjà ce bruit de la race, qui en fait est la ligne qui déplace la classe. Pour Hall, il en arrive à écrire la race et la modalité par laquelle la classe est vécue. Donc il fait complètement exploser évidemment l'idée première de la classe.
Après, sur le national populaire, l'argument de Gramsci, c'est l'argument suivant, c'est que la bourgeoisie ou les élites italiennes sont incapables de construire un pays digne de ce nom, on va le faire nous, c'est-à-dire la classe ouvrière, le parti communiste, etc. Et ça aura l'avantage que en le faisant nous, on va conférer cette construction nationale populaire un contenu plus progressif encore que, ou révolutionnaire que si la bourgeoisie avait été la classe aux commandes. Bon. Ça, c'est un raisonnement en fait assez classique dans le marxisme de l'époque. C'est l'idée selon laquelle les pays qui sont dans une situation de rattrapage, dans des situations de développement inégal et combiné, comme le dirait notre camarade Trotsky, ont une sorte d'avantage parce qu'ils vont pouvoir réaliser plusieurs étapes en un coup, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui ? Ça me paraît effectivement très compliqué. Il est tout à fait clair aujourd'hui que les manifestations du national, en France et ailleurs, ne sont pas populaires, au sens où Gramsci l'entendait. C'est-à-dire que le national aujourd'hui est très largement défini par des forces réactionnaires, racistes, etc. etc. Il suffit d'avoir ouvert un journal pour les dernières semaines pour s'en apercevoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut renoncer à l'échelon national comme champ de bataille ou comme lieu de la conflictualité. Est-ce que ça veut dire, comme le proposent certains, notamment dans les mouvements sociaux existants de type ATTAC, etc., que le champ de bataille privilégié aujourd'hui, ça pourrait être l'Europe ? Est-ce qu'il faut situer le problème immédiatement à l'échelon international, comme le dit par exemple quelqu'un comme Badiou ? Si vous avez entendu Badiou récemment, il dit que, de toute façon, les forces du capital financier en particulier sont beaucoup trop puissantes pour que même une construction supranationale de type Europe puisse y résister. Donc ce qu'il faut, c'est, comme chez Badiou, c'est toujours un peu abstrait, donc c'est tout de suite l'international. Donc c'était une discussion stratégique extrêmement compliquée, me semble-t-il. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse. Il est tout à fait évident qu'il faut pas abandonner l'échelon national, mais que sans doute une nouvelle forme de dialectique entre le national et au moins le continental, c'est-à-dire l'Europe, est sans doute souhaitable. Le problème, c'est que les institutions européennes telles qu'elles existent à l'heure actuelle, et particulièrement telles qu'elles ont évolué depuis la crise de 2007-2008, sont des institutions, comme vous le savez, mais c'est tout un autre débat, sur lesquelles les processus démocratiques ont de moins en moins pris. Donc, à cet échelon-là, disons, l'internationalisme à l'échelon continental est un internationalisme sans doute encore moins progressiste que l'échelon national. Donc je ne sais pas. La réponse à ta question, c'est que je ne sais pas. Mais le débat, à mon avis, est très important et pourrait bénéficier d'un apport de Gramsci sur ces questions. Il est tout à fait clair que la question de la dialectique entre le national et l'international se pose aujourd'hui en des termes différents qu'à l'époque de Gramsci, en Italie des années 10, 20 et 30.
Merci. D'autres questions? D'autres remarques? Vous êtes caché par Christophe. Donc...
D'accord, ok.
Bon, merci.
D'abord, Rajmi, merci, parce que c'était vraiment très éclairant et passionnant. Moi, j'avais une question sur le devenir de Gramsci, le devenir multiple, et je voulais savoir quel regard tu portais sur les usages de Gramsci dans la théorie féministe et dans la théorie queer. Je pense à deux cas, un cas qui est particulièrement typique, qui est assez connu, qui est le concept de masculinité hégémonique de Rowan Connell, et qui est largement repris, qui a fait l'objet d'un grand colloque à l'EHESS il n'y a pas très longtemps. Tu as insisté sur la dimension particulièrement historique de ce concept. Est-ce que tu penses que ce concept peut fonctionner dans cette conjoncture et à cette échelle-là, c'est-à-dire à l'échelle d'une pensée qui articule le monde social plutôt en classe de sexe. Et puis le deuxième exemple, c'était plutôt les réflexions contemporaines de Gianfranco Rebuccini sur l'état intégral comme permettant de penser les formes contemporaines de l'homonationalisme. Voilà, puisqu'il essaie de contrer les hypothèses selon lesquelles il y aurait aujourd'hui une instrumentalisation des luttes homosexuelles et des luttes féministes à des fins racistes, en montrant que, au contraire, selon l'hypothèse de l'état intégral, le féminisme, un certain féminisme aujourd'hui et un certain homonationalisme relèverait déjà de l'état.
En fait, les deux corpus que tu évoques, je les connais de très loin. Et ça fait partie des choses que je voudrais faire, que de les lire un peu sérieusement. Donc, je ne voudrais pas m'engager dans une discussion qui serait pas basée sur assez de connaissances de ces deux éléments. D'un point de vue général, moi, il me semble qu'il est évident que depuis que les cahiers de prison sont parus à la fin des années 40 dans l'édition Togliatti, et puis ensuite au fil des éditions et rééditions successives. L'édition dite scientifique définitive, elle paraît en 75. Donc vous voyez que c'est très tardif, en fait. Et il y a maintenant des discussions sur, et en fait, il faudrait refondre, etc. Donc depuis que Gramsci, c'est l'histoire de la lecture de Gramsci, c'est aussi l'histoire de la manière dont les gens se sont emparés de concepts et les ont transformés en concepts qui étaient souvent éloignés de ce que Gramsci avait l'intention de dire. D'un point de vue général, moi je suis un libéral sur cette question. Je pense que si les gens ont l'impression que ça peut les aider à comprendre une conjoncture ou une configuration de pouvoir ou une situation comme la question raciale dans le cadre de Stuart Hall, je pense qu'il est tout à fait normal et même bien que les gens puissent se référer à une partie d'une œuvre pour en déduire des concepts qui fonctionnent. Donc, comme disait, je crois, Foucault, une théorie, c'est une boîte à outils, et dans la boîte à outils, par définition, il y a plusieurs outils, on peut en prendre certains, et voir si on arrive à les faire fonctionner sur certains problèmes. Moi, je suis tout à fait attaché à ça. Mais, il y avait un mais qui se préparait depuis longtemps, parce que je disais, ce que je peux un peu regretter, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a d'un côté des élaborations du type de celles que tu évoques, encore une fois, je ne prends pas position dessus, parce que je ne les connais pas assez, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, d'une part, ce qu'on pourrait appeler des usages créatifs de la notion d'hégémonie, et qui sont tout à fait légitimes, et dont je suis sûr qu'ils donnent lieu à des théories intéressantes. Et à l'autre bout, il y a ce qu'on pourrait appeler la gramsciologie, c'est-à-dire un rapport philologique au texte, qui est très présent, évidemment, notamment en Italie, autour de l'Institut Gramsci, qui possède les originaux, etc. Tout ça, c'est aussi une religion, d'une certaine manière. Et autour de laquelle il y a des colloques, et où les gens discutent à longueur de colloques sur une demi-phrase, et ce genre de choses, quoi. Et je trouve qu'entre ces deux tendances, il y a place pour une troisième qui existe, mais qui est, je crois, minoritaire, et qui consiste, je ne sais pas comment dire, à lire Gramsci comme s'il était marxiste, c'est-à-dire ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire essayer de rattacher Gramsci à la tradition du marxisme qui le précède et à la tradition du marxisme qui s'est inspirée de lui. Et tu as cité des gens comme Perry Anderson, Stuart Hall, à mon avis, appartient clairement à ça. En Argentine, il y a les Gramsciens argentins qui sont les gens qui ont lu et relu Gramsci de manière extrêmement extrêmement créatrice, et Laclau est l'un des héritiers de ça. Il n'était pas le premier, mais des subalternistes en Inde. En Allemagne, aujourd'hui, il y a toute une pensée néo-gramscienne et néo-poulanzassienne, en fait, qui est liée. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais qui, à mon avis, sont un peu écrasées entre les deux pôles, l'un qui est les usages créatifs et l'autre qui est la philologie gramscienne. Il ne faudrait pas que cette troisième position soit trop écrasée, parce que pour moi, en tout cas, là c'est une option théorique et même politique, pour moi c'est là qui est le cœur de l'affaire, me semble-t-il. Enfin, elle ne peut pas suffire à elle-même, mais je veux dire, il faut que ce soit... Alors bon, il y a d'excellents travaux qui se font dans cette perspective, je pourrais vous en donner, notamment sur la question de l'Union européenne, il y a des gens qui utilisent national populaire, révolution passive, etc., pour analyser la nature de l'Union européenne, pour analyser la nature des crises organiques. Donc voilà, ma réponse, en fait, c'est, je contourne un peu la question, encore une fois, parce que je ne veux pas prendre position sur les territoires que tu évoques, mais je suis pour les usages créatifs, pour la philologie, mais aussi pour qu'on lise Gramsci. Il y a un des meilleurs spécialistes de la partie philologique du Gramsci, qui est un collègue qui s'appelle Fabio Frosini, dit il faut lire Gramsci comme on lit Machiavel et non comme on lit Plotin. Okay, donc ça veut dire que Gramsci, c'est d'une certaine manière un Machiavel, d'une certaine manière, des temps modernes, un Machiavel communiste. Donc quelqu'un qu'il faut essayer de situer dans une constellation plus politique qu'universitaire. Et si on fait cela, il me semble que c'est le troisième pôle qui est là. Ma réponse était un peu longue, mais tu prends un mot.
Tu peux peut-être dire deux mots, justement, des usages de Gramsci par les droites.
Oui, par les droites. Alors ça, c'est on en discutait tout à l'heure. Donc Gramsci est quelqu'un qui a été lu, évidemment, par la gauche social-démocrate et la gauche révolutionnaire, dans toute sa diversité. Mais, comme vous le savez sans doute, il a également été lu par la droite et l'extrême droite. Et il y a notamment une citation fameuse de Sarkozy juste après son élection, je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est dans le Figaro, où il dit « Je suis le premier à avoir appliqué la méthode Gramsci, etc. » Il n'a évidemment pas lu Gramsci, ça va sans dire, mais c'est Buisson qui lui a glissé la citation, j'imagine. Je ne sais pas, j'ai pas fait donc. Donc, en fait, il y a des lectures...
On attend les cassettes.
Comment ?
On attend les cassettes.
Oui, alors voilà, on va enfin savoir, c'est formidable. On va enfin savoir qui... Oui, c'était ça, parce que c'est en plus... peut-être que Buisson lui faisait des cours sur le Gramsci.
Mais ça peut être une lecture nationale populaire.
Totalement. Totalement. C'est une manière de... Je pense que ce que l'extrême... Il y a des lectures d'extrême droite différentes selon les pays dans lesquels on se trouve. Ça a été bien documenté pour l'Italie, pour les États-Unis, pour la France... C'est pas encore fait, à ma connaissance. Il n'y a pas vraiment de travail historique sérieux sur quelles ont été spécifiquement les lectures de Gramsci par l'extrême droite française. Ça viendra peut-être, je pense que c'est... Là, il y a des documents d'archives qui sont... que je peux... Enfin, pour en discuter, le cacher. À ma connaissance, ce que l'extrême droite a principalement pris de Gramsci, et là aussi c'est une mauvaise lecture, mais c'est une lecture qui a été féconde de leur point de vue, c'est plutôt la question de l'hégémonie culturelle. L'hégémonie par la culture, l'hégémonie par les idées. En d'autres termes, l'extrême droite s'est vécue comme une minorité active, une minorité, et s'est proposé, malgré ce statut de minorité, d'accéder à une sorte d'hégémonie, c'est d'ailleurs bien marché à certains égards, on peut dire, à une hégémonie par l'entremise des médias, par l'entremise de l'éducation, par l'entremise des catégories dominantes, etc. Je ne sais pas si cette notion de national populaire est centrale dans la lecture d'extrême droite de Gramsci, peut-être que oui, mais je crois que ce qui est très important, c'est ce truc de minorité agissante, quoi, de minorité active, qui va emporter l'hégémonie sans être démographiquement ou numériquement majoritaire dans la société. Alors évidemment, c'est une lecture erronée complètement de Gramsci. Gramsci n'a jamais dit que l'hégémonie, c'était trois types qui allaient, d'une certaine manière, gagner en influence uniquement en chuchotant à l'oreille du prince et ce genre de choses. L'hégémonie chez Gramsci, c'est un dispositif de classe. Ça suppose un parti politique, ça suppose une sorte de cela. Donc c'est une lecture erronée. Mais des lectures erronées, souvent, ont des implications historiques importantes. Donc voilà. Mais avis aux amateurs, s'il y a des gens qui cherchent des sujets de mémoire ou de thèse ou quoi, à mon avis, il y a une très belle thèse à faire sur Gramsci et l'extrême droite française.
Christophe et Aude. Et Nathalie.
Je vais me rendre au remerciement de mes camarades, mais également pour l'intensité peut-être souffrante de votre présentation. Et quelque chose qui n'a pas été relevé, mais que je voudrais relever, c'est aussi l'aspect très pédagogique, quoi, pour un néo-sien comme moi. Je trouve ça tout à fait intéressant. vous avez passé plein de choses, alors peut-être plein de choses, du coup je ne suis pas sûr d'avoir toujours tout bien compris, et ma question va probablement le révéler. Je voudrais revenir sur le lien que vous avez fait, sur le rapport entre national populaire et littérature. Chez Gramsci, vous avez parlé de Dostoïevski. Et donc voilà, j'essaie de lier ça à la question d'intellectuel organique. En fait, je me demande si, peut-être qu'il ne prend pas parti dessus, donc en tout cas c'est vite vu, mais est-ce que lorsqu'il explique que Dostoïevski représente le peuple et le construit, en même temps, est-ce que c'est lié, selon lui, est-ce que c'est pensé comme lié à une conscience de classe de l'auteur lui-même ou pas? Est-ce que c'est plus indirect, plus médial, lié à la médiatisation par là? Et dans ces cas-là, finalement, en fait, la question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que signifie ce que vous avez dit, qui est mêler le haut et le bas. Voilà. Est-ce que c'est vraiment lié à une conscience de classe et donc finalement quelque chose qui serait plus lié à ce que vous avez appelé l'intellectuel organique? Voilà. Je ne sais pas si ma question est très claire.
Tout à fait clair. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de réponse nette à cette question dans les cahiers de prison, mais particulièrement pas dans le passage consacré à Dostoïevski. C'est certainement pas délibéré au sens où Dostoïevski serait un intellectuel explicitement lié au projet de construction de l'État russe ou serait dans une position... de quelqu'un d'actif dans ce processus et donc conscient de la tâche historique qui est la sienne. Je pense que c'est beaucoup plus souterrain.
C'est pas de la propagande.
C'est certainement pas de la propagande. C'est au contraire quelque chose qui passe par ce que Gramsci appelle dans la citation que j'ai faite les masses de sentiments. Masses de sentiments qui sont pour la plupart, si ce n'est inconscientes, du moins infraconscientes. Ça veut pas dire qu'un auteur ne peut pas se rendre compte qu'il est indissociablement attaché au destin d'un peuple particulier. Bien sûr que dans le cadre de Dostoïevski, ça arrive. C'est tout à fait clair, d'ailleurs. L'âme russe, c'est tout clair. C'est certainement pas quelque chose que Gramsci réserverait à des gens qui seraient explicitement conscients d'une tâche historique qui serait la leur et qui serait des bâtisseurs d'État-nation, en quelque sorte. Oui. Qui seraient explicitement.
Et ce qui imposerait, en fait, ce que c'est derrière, ce qui imposerait qu'il soit membre même de la classe... De la classe sociale en question.
Oui, exactement. Après, la question dans le cas russe, c'est de savoir exactement quelle était la classe dirigeante à l'époque, puisque, évidemment, c'était pour le moins, là encore, un État au sens gramscien, mal formé, défectueux, etc. Chez Gramsci, il y a toujours une espèce de centralité du modèle de la Révolution française qui fait que tout le reste est défectueux, d'une certaine manière. Donc ça, c'est évidemment méthodologiquement pas très satisfaisant. C'est classique, c'est, chez les marxistes classiques, c'est toujours comme ça. Il y a la Révolution française, puis tout le reste, c'est une déviation par rapport à ça. Et ensuite, ça aura été la révolution russe et tout le reste, c'est des déviations, par contre. Donc évidemment, ça ne convient plus trop comme modèle de réflexion. Mais voilà, donc ce serait ça l'argument. Ça suppose pas du tout un projet conscient, ça suppose une sorte de connexion par les sentiments et presque par les affects entre un auteur. Et ça implique que certains processus aient lieu non seulement chez l'auteur, mais aussi chez le peuple. Il y a un truc que j'ajoute, que je voulais dire et que je n'ai pas dit, il y a aussi chez Gramsci une théorie de la personnalité, de la personne humaine plus exactement. On dirait une théorie du sujet aujourd'hui. Et il y a une expression frappante de Gramsci qui dit « la personne est un site archéologique vivant ». La personne est un site archéologique vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit Gramsci, que nous sommes tous en tant qu'individus constitués de différentes strates qui nous viennent des différentes étapes de notre socialisation ou qui nous viennent de l'histoire longue des groupes sociaux, peuples, classes auxquels nous sommes intégrés. Alors l'élément important, et c'est la raison pour laquelle Gramsci dit archéologique, c'est que ces différentes strates peuvent renvoyer à des périodes historiques plus ou moins lointaines. Vous voyez, certaines sont plus récentes, d'autres sont plus anciennes. Comme dirait notre regretté Daniel Ben Saïd, les temps sont discordants, d'une certaine manière. Les temps sont discordants, y compris à l'intérieur de la personne. Nous sommes, d'une certaine manière... un site sur lequel des vestiges d'époques différentes sont... Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Dostoïevski lui-même, dans son rapport national populaire à la population qui l'entoure, réfère sans doute à des périodes plus ou moins anciennes de l'histoire du peuple russe. Des choses archaïques, des choses plus modernes. Quand il met en scène des révolutionnaires ou des populistes, c'est évidemment l'ultra-contemporain. Quand il met en scène des clercs ou des religieux, c'est le plus ancien. Donc, Tout ça, c'est. Il ne faut pas en avoir une. Gramsci, c'est un penseur de la complexité, c'est ça aussi sa force dans la tradition marxiste. C'est que c'est quelqu'un qui essaye de penser la manière dont dont des processus, y compris antagoniques, discordants temporellement et spatialement, peuvent venir se rencontrer et s'articuler dans une personne, dans une classe sociale, dans une matrice nationale étatique, etc. Bon, donc en gros, c'est en tout cas pas volontaire au sens délibéré.
Excusez-moi, c'est juste aussi encore par rapport à la littérature, peut-être ce serait éclairant du coup de comparer à la ce qu'il dit sur Dostoïevski, ce qu'il dit sur Victor Hugo, parce que là, du coup, on voit peut-être la différence. Hein. Parce que ça ne peut pas être que dans le mélange du haut et du bas, parce qu'on retrouve ça aussi chez Victor Hugo, évidemment.
Bien sûr.
Donc ce n'est pas qu'une question de thématisation ou de représentation du peuple, hein. Mais peut-être plutôt dans un rapport empathique.
Oui, je crois que c'est un terme qu'on peut parfaitement... Je ne me souviens pas s'il est présent empathique chez Gramsci, c'est exactement ça.
Non, c'est ça.
Je crois que c'est exactement ça. Donc c'est certainement pas que le haut et le bas, mais disons ce double mouvement de représentation-construction implique ça. Parce qu'évidemment, le peuple, il est aussi tel qu'il est. Il n'est pas toujours à venir, il est aussi en partie sociologiquement existant. Et par conséquent, il lit les romans populaires, il lit de la littérature enfantine, etc. Donc il y a aussi une manière de représenter ce qui existe déjà. Mais il y a dans le même mouvement une espèce de volonté de prolonger les choses. Donc empathique, oui, pourquoi pas. C'est très intéressant maintenant parce qu'on a une édition électronique complète des cahiers de prison en italien. Donc on peut faire des recherches par mots-clés. Donc je vais voir empathie si ça y est et combien de fois. Et du coup, ça permettra de voir si le terme existe. Mais je crois que c'est ça l'idée.
Alors que chez Victor Hugo, il y aurait plutôt un certain paternalisme.
Oui, mais un paternalisme qui, là encore, dans la longue vie de Victor Hugo, a évolué et selon la conjoncture politique, l'a conduit à être plutôt du côté des forces progressistes et au contraire...
Et ça, c'est plutôt le défaut des typologies de ne pas totalement être assez précise
totalement
sur
totalement
l'évolution.
Absolument.
Oui, c'est sûr. Et Aude, je me permettrai deux petites remarques avant pour rebondir sur... C'est une question que je pose aussi à Maxime. Est-ce que j'ai pas souvenir, par exemple, dans les travaux de Janice Radouet, si elle fait référence à Gramsci sur la question de justement de la démocratie sentimentale, tout ça. J'ai pas du tout souvenir de ça, mais c'est marrant parce que ça pourrait matcher quoi là-dessus.
C'est intéressant cette histoire de démocratie sentimentale. Quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, c'est hallucinant. Donc c'est un truc sans intention politique, mais c'est ce que dit Rancière dans Politique de la littérature, en fait. C'est l'idée qu'un roman, par l'espèce d'égalisation des personnages à laquelle il se livre, a des effets égalitaires indépendamment de l'intention de l'auteur, d'une certaine façon. Enfin, j'aplatis un peu ce que dit Rancière, mais en gros, c'est quelque chose de cet ordre. Donc un roman peut avoir une intention réactionnaire, mais du fait de cette espèce de démocratie sentimentale, ça produit des effets complètement qui échappent à l'intention de l'auteur. C'est juste ça.
Et la deuxième petite remarque, c'est ça m'aurait bien... bien intéressé en fait que tu développes la théorie du sujet chez Gramsci.
Ouais.
Il me semble que il y en a une chez Marx bien évidemment. Ouais. Il me semble que assez clairement là la sociologie il faut qu'elle mette son nez dedans quoi.
Ouais.
Que l'individu comme je sais pas l'expression que tu emploies.
Si t'archéologie
vivant. Moi je veux bien mais je veux une théorie de la socialisation derrière.
Ah oui d'accord. Oui oui. Bien sûr. Non, là, bien sûr, là, c'est quelque chose qu'il n'y a pas chez Gramsci.
Non, bien sûr, non.
Mais là, il y a une alliance à construire entre, par exemple, Gramsci et Bourdieu.
Il me semble, c'est clairement.
Que Bourdieu lui-même aurait dû d'ailleurs construire. Bon, il avait autre chose à faire, il a fait beaucoup de choses. Si on lit, par exemple, les cours sur l'État, il y a des citations de Gramsci qui sont faites par Bourdieu et qui sont étonnamment erronées, quoi. Je sais pas, c'est très bizarre. Bref, ne me lancez pas sur le rapport de l'égo-marxisme, parce que sinon on est encore là.
Aude, pardon.
Pour moi, c'est des questions peut-être de clarification plutôt. C'est la première sur la catharsis.
Ouais.
Parce que j'étais très surprise de rencontrer cette notion, et j'avoue que je n'ai pas forcément très bien compris d'ailleurs à quoi elle renvoyait. Mais du coup, ça pose pas mal de questions, parce que c'est un concept issu de la poétique d'Aristote, qui en grec a à la fois un sens médical et religieux d'ailleurs, côté politique avec Aristote. Voilà, donc quelle est une histoire assez étonnante. Comment est-ce qu'il atterrit chez Gramsci, ouais. Quelle fonction il a? Est-ce qu'il y a cet héritage, cette filiation? Et puis une autre question qui concerne cette fois la filiation à Machiavel. Mm-hmm. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est peut-être que tu... parce que comme chez Machiavel, il y a toute cette... surtout dans Le Prince, d'ailleurs, mais dans tous ses écrits, il y a vraiment la distinction, l'articulation dynamique entre la virtu et la fortuna, enfin, la force et la fortune, l'événement. Est-ce qu'il y a une reprise de ça chez Gramsci, et si oui, en quel sens, qu'est-ce que ça devient, et quel type de, au fond, de pensée de la temporalité politique ça peut impliquer
Sur la catharsis, ce que dit Gramsci, c'est dans le cadre d'une réflexion sur qu'est-ce que ça implique de devenir une classe hégémonique. Et ce que dit Gramsci, c'est la chose suivante. Et là, il débat avec les marxistes de son temps, en fait, qui ont eu une conception un peu mécaniste et simpliste du rapport dominant-dominé. En fait, ce dont il voudrait sortir, c'est l'idée selon laquelle la domination, ben, c'est la force, c'est etc. Il dit que non, à la limite des sociétés d'ancien régime, ça pourrait être le cas, ou à l'époque médiévale, etc. Mais même dans ce cas, ce qu'il dit, c'est que les classes dominantes, hégémoniques dans le cas du capitalisme, devaient, d'une certaine manière, parvenir au pouvoir pour réaliser, évidemment, leurs intérêts, mais que la réalisation de leurs intérêts sur la longue durée impliquait d'entraîner avec eux une fraction, en tout cas, des classes subalternes, ou du national populaire, ou de la classe ouvrière. Et la catharsis, c'est vraiment ce processus par lequel les classes hégémoniques ou dominantes, d'une certaine manière, en viennent intégrer leurs intérêts au progrès civilisationnel de l'ensemble de la société. Faire un pas progressiste, civilisationnel, c'est son expression, à l'ensemble de la société, donc à faire en quelque sorte bénéficier de leurs intérêts propres à l'ensemble de la société. Catharsis, étymologiquement, mais tu vas peut-être me corriger, je crois que ça, l'une des significations de catharsis, c'est purification.
Clarification, purification.
Ouais, c'est ça. Donc je crois que c'est le sens purification, au sens de la purification de... au sens, les classes hégémoniques ne renoncent évidemment pas à leurs intérêts, et par exemple à accumuler du capital ou du pouvoir, ça va sans dire. Mais ils doivent le faire en tenant en compte le fait qu'ils n'y parviendront pas sur le moyen et long terme s'ils ne parviennent pas à entraîner avec eux une partie au moins significative des classes subalternes, des classes populaires ou de la classe ouvrière. Tu vois, c'est ça la catharsis. Donc c'est une espèce de... C'est sans doute effectivement un usage très inhabituel de cette notion. Je ne sais pas précisément où Gramsci la trouve. Ça, il faudrait chercher. Je ne sais pas. Je ne connais pas d'études qui portent sur ce problème spécifiquement et pas non plus d'études qui porteraient sur le rapport Gramsci-Aristote, même s'il y a des citations
d'Aristote. Non, mais après, étant donné l'intérêt que tu as présenté de la littérature dans sa pensée, voilà, tu me demandais est-ce qu'il y avait un lien entre les deux.
Certainement, certainement. Il est possible que Gramsci ait lu Aristote avant l'emprisonnement. Est-ce qu'il avait... En fait, ce que Gramsci recevait surtout en prison et ce qu'il avait à disposition, c'était surtout des journaux, y compris des magazines. Donc on s'est aperçu avec le temps que des ouvrages qu'il commentait, en fait, il ne les avait pas lus, mais qu'il avait lu les comptes rendus dans la presse italienne de l'époque qu'on lui avait refilé. Donc il faut voir ce que c'est écrire en prison à l'époque de Mussolini. Il avait déjà une santé fragile avant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sans doute... imprécises, qui se rattachent pas nécessairement à des lectures disons, canoniques de l'époque, mais je vais chercher. Je te dirai si je trouve des choses. Mais à ma connaissance, comme ça, je vois pas d'article qui se serait interrogé spécifiquement sur le rapport Aristote-Gramsci. Et donc la catharsis, c'est ça. Après, sur Machiavel, ce qui intéresse Gramsci dans Machiavel, c'est d'ailleurs au cahier 12, essentiellement, c'est un cahier qui s'intitule « Petite note sur Machiavel ». Qui est l'un des cahiers les plus importants, c'est moins la fortuna et la virtu, qui à ma connaissance ne sont pas des termes qui existent dans les cahiers de prison, mais c'est qu'est-ce que le prince moderne ? Qu'est-ce que le prince à l'époque de Machiavel et qu'est-ce que le prince à notre époque ? Et ce que dit Gramsci, c'est que, alors qu'à l'époque de Machiavel, du fait du développement du stade de développement auquel on était les sociétés à l'époque, le prince pouvait être une personne, la fonction de prince, puisque prince c'est une fonction pour Gramsci, pouvait s'incarner dans une personne. À l'époque de Gramsci, au début du XXe siècle, du fait de la complexification de la société, du fait qu'on est passé de l'Orient à l'Occident, du fait qu'on est passé de la guerre de mouvement à la guerre de position, bref, toutes les transformations que j'ai évoquées, Le prince, désormais, ne peut être qu'un élément complexe de société. C'est-à-dire un collectif. C'est-à-dire le Parti communiste. C'est ça qui l'intéresse. Donc le prince, c'est une fonction et non une personne. Et cette fonction, elle s'incarne dans des segments humains individuels ou collectifs particuliers à chaque époque. Et donc voilà. Donc c'est ça principalement l'intérêt de... Bon, après, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont liées, par exemple, la manière dont Machiavel a eu une influence sur la politique italienne, sur la philosophie italienne, sur le rapport entre Machiavel et le fascisme, etc. Mais à ma connaissance, les concepts en effet qu'on rattache traditionnellement à Machiavel ne sont pas l'objet du livre. Ils sont certainement évoqués en passant, j'imagine, il faudrait aller encore que je fasse une recherche, mais à ma connaissance, ils ne sont pas élaborés, certainement pas élaborés de manière originale, novatrice.
Oui, mais étant donné que chez Machiavel, c'est quand même des concepts qui sont à la base de la dimension stratégique,
ouais.
Comment agir,
ouais.
Et la théorie d'action, elle est basée,
ouais.
Sur cette,
oui.
Sur cette distinction.
Oui.
Donc, comme tu as présenté ça, c'est vraiment sur la visée est fondamentalement stratégique.
Oui.
Peut-être qu'il y a l'équivalent qui est...
Totalement. En fait, j'ai oublié une partie de ta question qui est la partie qui porte sur, disons, la dimension de contingence politique, la dimension de dans quelle mesure. Gramsci, c'est une variante de marxisme dans la tradition classique, qui est un marxisme que l'on qualifie souvent de politique, pour insister sur le fait que, évidemment, il y a des déterminations socio-économiques, ça va sans dire, il y a des déterminations sociales et culturelles, mais Gramsci est des marxistes classiques, l'un de ceux, avec Lénine d'ailleurs, évidemment, qui accorde la place la plus importante à la politique, c'est-à-dire au caractère événementiel, au matérialisme aléatoire, pour reprendre l'expression qui sera utilisée par Alain Dussert. Donc la part de la contingence est très importante dans le marxisme de Gramsci, si on le compare par exemple au marxisme de la Deuxième Internationale, de type Kautsky par exemple, où là c'est l'évolutionnisme, pas de problème, on va y arriver, quoi qu'il arrive. Donc c'est bon. Et alors l'élément important chez Gramsci, et ça c'est peut-être lié à Machiavel, je ne sais pas, mais probablement que oui, c'est que pour lui, les crises du capitalisme, ce qu'il appelle les crises organiques, les crises d'hégémonie, sont des moments d'affaiblissement des déterminismes. Et sont par conséquent le moment par excellence de la politique. C'est là que la politique, en quelque sorte, ressurgit ou surgit dans toute sa plénitude, en quelque sorte. C'est une idée qu'on trouve déjà chez Lénine, dans la notion de crise stratégique chez Lénine, qui a été reprise par Daniel Ben-Saïd notamment. Il y a cette idée selon laquelle les crises sont des moments où les déterminations sociales, économiques, culturelles s'affaiblissent et où la possibilité de la politique réapparaît. Donc là, c'est tout à fait explicite chez... Alors, est-ce que ça vient de Machiavel? Peut-être. Est-ce que c'est l'influence de je ne sais pas. Ça, je ne connais pas suffisamment Machiavel pour savoir si c'est quelque chose qu'on peut rattacher à la tradition machiavélienne spécifiquement. Donc, crise politique. Ça, c'est vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique en dehors des crises, bien sûr. Il y a de la politique. Mais en bon marxiste, Gramsci est quelqu'un qui pense que, d'une certaine manière, la vraie grande politique, c'est la vraie grande politique qui se joue au moment des crises. Que c'est dans les moments de crise du capitalisme que. Il faut en quelque sorte saisir l'opportunité. Bon, ça, c'est ça. La fortune à la voix. Mais c'est au sens très générique. Très général.
Nathalie.
En parlant de cette intervention, j'ai une question qui est beaucoup plus large, elle porte plus sur l'histoire des idées et la contribution de Gramsci. Et justement, au début de votre intervention, vous avez présenté cette typologie entre Orient et Occident qui n'était pas forcément à prendre. Comme très géographique, mais justement, si ce n'est pas géographique, pourquoi il conserve ces deux termes dans sa boîte à outils? Ma question vient parce que je pense que même si on essaye de se détacher de cette question géographique, il y a toujours une question eurocentrée par rapport au choix des termes. Et je pensais justement à un ouvrage d'Alain Rouquier qui s'appelle L'Amérique latine et l'introduction à l'extrême occident, où justement, je ne sais pas si. Alain Rouquier prenait le contre-pied de Gramsci ou justement d'autres penseurs qui voulaient aller à l'encontre de cette vision très géographique du concept que des fois on sort des institutions. Et je voulais savoir justement si lui il en avait conscience, si c'était plus une figure de style qu'il utilisait
notre okay. Non, c'est une excellente question. Il est tout à fait clair qu'aujourd'hui on ne reconduirait pas cette distinction. Qui est pour le moins orientaliste au sens d'Edward Said, ça c'est tout à fait évident. Même en abstrayant, disons, le concept d'Occident et le concept d'Orient de ces les actualisations géographiques, ça reste extrêmement insatisfaisant de poser le problème dans ces termes. La raison pour laquelle Gramsci maintient malgré tout cette dualité, c'est pour des raisons qui ont trait à l'organisation des réseaux marxistes de l'époque. Il écrit après la révolution russe. Il faut voir ce que c'était la révolution russe et l'impact que ça a eu sur le monde en général et sur les milieux marxistes en particulier, les milieux communistes en général. Et par conséquent, dans l'imaginaire d'un marxiste italien ou ouest-européen de l'époque de Gramsci, des années 20 et des années 30, il y a ce qui se passe en Orient, en Russie, et il y a ce qui se passe en Occident. L'Occident était, comme vous le savez historiquement, le lieu où la révolution aurait dû survenir, et où, contre toute attente, on n'arrive pas à la faire survenir pour des questions stratégiques sur lesquelles on bute en permanence. Par contre, c'est là où on l'attendait le moins, c'est-à-dire en Russie, que là. Donc, cette espèce de structuration entre Occident et Orient, il faut voir que ça, c'était une espèce de cartographie mentale, de carte mentale qui était extrêmement présente dans les milieux radicaux, marxistes en particulier, de l'époque. Et c'est la raison pour laquelle Gramsci raisonne dans ces termes. C'est pas le seul. Hein. Les gens qui arrivent au pouvoir, les bolcheviks, en 1917 et dans les années qui vont suivre, vont s'occuper, par exemple, de tout ce qui est doctrine et propagande dans le domaine du marxisme. Ce sont eux qui vont commencer à parler d'un terme que Maxime a utilisé, je crois, c'est marxisme occidental. Tu as évoqué Perry Anderson qui veut. Marxisme occidental, c'est un terme qui, à l'origine, vient de Moscou et qui vise à désigner les formes de marxisme qui voudraient échapper à la tutelle de Moscou ou qui voudraient se développer dans un contexte. Donc, c'est vraiment un univers qui est structuré d'après cette distinction. Donc, tout ça pour dire que la raison pour laquelle Gramsci, malgré tout, maintient cette division, c'est parce que c'est quelque chose qui... Il a lui-même fait le voyage de Moscou, comme je l'ai dit, il a participé au 4e congrès du Comintern. Donc cette espèce d'aller-retour, que, tout comme en d'autres époques, les gens allaient à Cuba ou au Vietnam, ou etc., et par conséquent en ont nourri des cartes mentales qui n'étaient plus les mêmes, par exemple des cartes mentales où c'était les rapports nord-sud, ou centre-périphérie qui était dominant. Dans la génération des marxistes de Gramsci, c'était vraiment est-ouest, quoi. Et du fait évidemment de la révolution. Alors sur l'extrême occident, j'ai pas lu le livre, je connais le livre, j'ai vu le titre qui me paraît être un très beau titre. Est-ce qu'il se réfère à Gramsci? J'en sais rien.
Non, il
n'y a pas de référence à lui. Mais il appartient à une génération, il est relativement âgé, je crois, qui a dû rencontrer Gramsci d'une manière ou d'une autre. Et Gramsci est un auteur qui a été beaucoup lu en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, au Mexique. Certains des meilleurs interprètes de Gramsci aujourd'hui sont latino-américains. Pour des raisons XY, il faudrait revenir sur la réception de Gramsci en Amérique latine. Donc peut-être que quelqu'un qui a évolué. Je crois qu'il était ambassadeur quelque part.
Il était ambassadeur au Mexique ou au
Brésil. C'est tout à fait possible qu'il ait rencontré sur son chemin Gramsci. C'est un bon livre.
Oui, c'est.
Alors il a sûrement lu Gramsci.
Docteur Sénéca.
Ah oui, j'avais une petite question sur justement l'usage sélectif un peu de certains concepts, notamment celui d'intellectuel organique. Souvent, on l'associe essentiellement aux forces progressistes, effectivement, organisateurs politiques, une compagnie comme le terme, mais j'ai l'impression qu'on ne le remet jamais dans cette définition associée à la classe hégémonique. J'ai l'impression qu'il y a de, je ne sais pas, j'ai cette impression-là dans les lectures qu'on n'en fait pas comme une lecture très large de cette notion-là. Et je ne sais pas, je voulais vérifier avec vous. Puis je me demandais aussi si la fameuse tendance émergente, j'aimerais ça vous entendre parler, c'est par rapport au concept d'émancipation qu'on retrouve par ailleurs.
À la mode dernièrement.
Ben oui, mais qui est quand même, qui a des fondements un peu partout, là. Quand même, c'est pas, oui, à l'heure actuelle, on reprend effectivement ça. Donc, ça m'intéresse d'autant plus que, finalement, Marcel Rioux travaillait sur, il parlait toujours à la fois de ne pas critiquer la société telle qu'elle est, mais aussi de voir également un peu quelles sont les tendances émergentes de l'émancipation ou de pratiques émancipatoires et tout. Donc, c'est un peu... Donc, comment on peut créer une nouvelle société? Alors, donc, critique et création sont comme dialectiquement reliés.
L'intellectuel organique, c'est une notion que l'on définit souvent, par exemple, dans les cours sur l'état de Bourdieu, quand il parle d'intellectuel organique, il dit l'intellectuel qui serait membre du Parti communiste, ou qui serait membre de la Ligue communiste révolutionnaire. C'est un intellectuel lié à...
C'est l'intellectuel de parti.
C'est l'intellectuel de parti, tel que défini notamment par Noirier. Ça, c'est pas le sens gramscien. Le sens gramscien consiste à dire que l'intellectuel en question peut évidemment être membre d'un parti, mais ça, c'est contingent et c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est... D'ailleurs, les deux questions sont liées. Ce qui est important, c'est le sens et la tendance du développement et quel type de groupe professionnel intellectuel, juriste, ingénieur, etc., sont nécessaires pour accomplir les deux tâches, les deux piliers de l'hégémonie que j'évoquais, c'est-à-dire consentement spontané et coercition. C'est ça l'idée. Donc, il faut, pour répondre à la question de savoir qui est un intellectuel organique aujourd'hui, il faut voir en quelque sorte dans quel sens va la société, dans quel sens se développe-t-elle. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, les informaticiens, du fait de la centralité de l'informatique numérique dans le développement économique, est-ce que les informaticiens sont une forme de nouveaux intellectuels organiques ? C'est très différent que les intellectuels organiques comme membres du Parti communiste ou de l'UMP ou que sais-je encore. Vous voyez, c'est une définition sociologique et politique, d'une certaine manière. Je ne sais pas quelle est la raison de cette confusion. Elle vient peut-être de Togliatti et de la lecture initiale qui avait été faite de ce concept dans le cadre du Parti communiste italien. L'histoire du Parti communiste italien est une histoire extrêmement tumultueuse et intéressante. C'est un parti qui a compté jusqu'à 2,5 millions de membres, donc beaucoup plus que le Parti communiste français, et qui avait cette caractéristique d'avoir justement une sorte d'hégémonie sur les milieux culturels. Et il n'est pas exclu que la définition d'intellectuel organique comme intellectuel de parti, au sens italien de l'époque de Togliatti, vienne de là. C'est possible, je ne sais pas, il faudrait faire une recherche. Après, sur la question de tendance émergente, c'est vraiment l'idée selon laquelle c'est des phrases qu'on trouve chez Marx, bien sûr. C'est l'idée selon laquelle les germes de la société future sont déjà là. C'est en ce sens qu'on se trompe là aussi souvent sur ce que Marx appelait communisme. C'est pas une utopie, le communisme. C'est quelque chose qui sont des tendances déjà à l'œuvre et qu'il est possible par conséquent d'observer d'une certaine manière. L'intellectualité nouvelle, on parle là aussi dans les usines Fiat du nord de l'Italie, c'est une forme d'intellectualité qui, en se développant et en se radicalisant, eh bien, débouchera sur la culture socialiste. Quelque chose de cet ordre. Alors, quel est le lien avec émancipation ?
Il y en a de ces.
Émancipation, c'est un terme qui prolifère en ce moment et autour duquel beaucoup de gens s'organisent et qui donnent lieu à des colloques comme le colloque Pensée d'émancipation, qui donne des résultats vraiment très intéressants. L'une des raisons pour lesquelles il a du succès, c'est peut-être qu'il est très difficile de définir ce que c'est que l'émancipation. Parfois, il ne faut pas trop définir les termes, c'est ce qui permet à différentes personnes d'y mettre ce qu'ils entendent et de venir, par exemple, à un congrès comme penser l'émancipation. Mais il est clair que ce n'est pas la même chose que les tendances émergentes. Parce que les tendances émergentes, Gramsci, mais aussi Marx, mais aussi Negri, mais aussi Tronti, les décèlent sur le lieu de travail et les décèlent dans le cadre d'enquêtes, disons, proto-sociologiques, sociologiques presque. Ce n'est pas la même chose que de se poser le problème en termes d'émancipation, qui est sans doute un concept peut-être plus intellectualiste, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait Mais je trouve que dans la conjoncture actuelle, le concept d'émancipation est un bon concept. Un concept intéressant, provisoirement.
Et justement, le rapport de Negri à Gramsci,
Oui, c'est un rapport entièrement négatif jusque récemment, pour la raison suivante, c'est que l'extrême gauche italienne, et l'opéraïsme en particulier, s'est construite intégralement et viscéralement contre la culture communiste que j'évoquais. Contre Togliatti, contre le national populaire italien, contre, la tradition du parti communiste italien qui commence dans l'après-guerre et qui va jusqu'à des gens comme Berlinguer, etc. L'extrême gauche italienne, d'ailleurs trotskiste aussi, mais ce dont on en retient de cette période, c'est plutôt l'opéraïsme, se construit en marge des syndicats organisés, a une dimension spontanéiste très forte, qui la rattache d'ailleurs à la tradition maoïste française, une espèce de spontanisme viscéralement hostile aux organisations syndicales et aux partis politiques. Et en fait, ce que fait l'opéraïsme, c'est théoriser l'arrivée dans les usines du nord du pays dans les années 50, 60, 70, de la paysannerie du sud, ou des enfants de la paysannerie du sud, en voie de prolétarisation. Donc une sorte d'exode rural interne. Du sud vers le nord. Et les opéraïstes, Tronti, Negri et compagnie, se vivent comme étant comme étant les observateurs et les gens qui vont radicaliser et organiser politiquement cette... Gramsci, à l'époque, est le penseur officiel du PCI, du Parti communiste italien. Et par conséquent, toute personne qui se réfère à Gramsci, ou presque, se met de fait dans l'orbite du Parti communiste italien. C'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, et jusque récemment, les penseurs de cette tradition ont tenu Gramsci à distance en disant « Nous, ça ne nous intéresse pas, on se réfère à d'autres traditions, etc. » Alors c'est à tort, parce qu'une partie de leur façon de faire de la politique, au minimum, renvoyait au Gramsci d'avant l'emprisonnement. C'est-à-dire au Gramsci, l'ordinoviste, comme on dit, de l'ordine et moi, c'est-à-dire des années 1920, et cette manière que Gramsci avait de pratiquer l'enquête ouvrière dans les usines. Donc voilà, donc, si tu veux, le Gramsci sert de repoussoir dans les années 60-70, parce qu'il est intégré par la culture communiste officielle à tous ces groupes d'extrême gauche qui préfèrent se réclamer d'autres traditions. Quoi. Mais dernièrement, Negri. Dernièrement, apparemment, il fait une espèce de retour à Gramsci. Il a notamment publié un compte-rendu d'un livre d'un... Aujourd'hui, le meilleur spécialiste de Gramsci est un Australien, figurez-vous, c'est Peter Thomas, et qui a écrit un livre en 2009 marquant, qui a un peu renouvelé les études gramsciennes. Et Negri a fait un compte-rendu élogieux de ce texte, que vous trouvez sur Internet d'ailleurs. Et ça a étonné beaucoup de monde, parce que c'était probablement la première fois que Negri disait du bien... à la fois de Gramsci et de gens qui parlaient de Gramsci. Donc il y a peut-être un retour de Negri sur ces années. Bon, l'Italie de l'époque, c'est vraiment un champ de bataille. Quoi. C'est un champ de bataille, y compris l'intérieur de gauche. Avec,
est-ce qu'il n'y a pas un point d'accroche quand même entre Gramsci et l'opéraïsme avec la question du fordisme?
Oui, à cette différence près que Gramsci pense l'installation en Europe et en Italie en particulier du fordisme, c'est tout ce dont il parle dans le cahier 22, américanisme et fordisme. Ce dont parlent les opéraïstes, c'est d'une certaine manière déjà la sortie du fordisme. Ce que Negri va appeler l'ouvrier social, c'est-à-dire une manière pour la condition prolétaire de ne plus se cantonner dans l'usine comme à l'époque fordiste, mais pour la société dans son ensemble de devenir une usine, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle l'ouvrier social, le décloisonnement de la condition ouvrière, c'est la sortie du fordisme. C'est exactement le même processus que les régulationnistes vont observer ici en France, et donc vous voyez avec l'État, à la fois l'instauration, l'histoire longue du fordisme depuis les années 30 en Europe, et la sortie du fordisme à partir de la fin des années 60 et début des années 70. Donc le fordisme, c'est un thème commun, mais ils sont, Gramsci et Negri, et les opéraïstes, aux deux bouts, d'une certaine manière. Le fordisme arrive en Italie et en Europe, Gramsci l'observe, et au bout, c'est la sortie du fordisme, et c'est ça,
du coup, pensée de la part de Gramsci, pensée très novatrice,
ouais, oui,
à l'époque, sûr. Sur la question de l'américanisme
et du fordisme,
et même chose pour Negri.
Ouais, ouais. Non, c'est le marxisme italien est quelque chose d'absolument phénoménal, hein, pour des raisons qu'il faudrait expliquer. Et là encore, on parle que de deux traditions à l'intérieur du marxisme italien, mais il y en aurait d'autres. Est-ce que c'est lié historiquement? On a beaucoup interprété ça en disant c'est les avantages du retard du développement. Quand vous êtes dans une situation de retard de développement, ça vous donne une sorte de clairvoyance parce que vous êtes ni complètement en fin de parcours, ni dans les pays avancés, vous êtes au milieu, donc vous voyez. J'en sais rien, ça vaut pas grand-chose selon l'explication. Traditionnellement, c'est l'explication qu'on donne par le fait qu'il y a en Italie des processus à la fois très avancés dans le nord, par exemple, un tissu de PME extrêmement extrêmement dynamique, à la pointe des derniers développements technologiques, et puis au sud, une paysannerie qui vit à une époque encore très moderne, etc. Ce genre d'idées, on a beaucoup entendu. Et donc, du fait d'avoir cette réalité extrêmement composite et complexe à observer, ben, ça aurait donné au marxisme italien une espèce de, soit de clairvoyance, soit d'intérêt particulier, etc. J'en sais rien. Je pense que c'est pas ça l'explication, sans doute, mais en tout cas, il est clair que les marxistes italiens intéressants, il y en a de toutes sortes. Bordiga, par exemple, Giovanni Arrighi, qui est décédé récemment, le trotskisme italien, enfin, il y a toutes sortes de trucs. C'est incroyable. La tradition d'Il Manifesto, donc le journal Il Manifesto. Gramsci n'est pas le premier, mais c'est l'un des pères fondateurs de cette tradition.
Ok. D'autres commentaires, questions? Docteur Sénécal.
Non, pas de questions.
Mais merci en tout cas pour toutes ces questions.
Bah, merci encore. Juste un petit point pour le